Vous êtes sur RTL.
Hommage à Jean-Paul Belmondo et merci aussi à tous nos auditeurs qui ont témoigné de leur attachement à cet homme qui occupait une place à part dans le cinéma tricolore mais aussi dans la vie des Français. J'ai fait ce métier pour que tout le monde me regarde jouer. Ces propos du jeune Belmondo ont été récompensés par 60 ans de fidélité du public. Ils contrastent avec l'extraordinaire pudeur du comédien et pourtant nous avons tant de choses à vous raconter sur Jean-Paul Belmondo. Claude Lelouch sera avec nous pour un Laissez-vous tenter bien particulier dès 9h et dès 7h15, mon camarade Stéphane Boulsog vous fera redécouvrir sa dernière interview sur RTL. Il est sans doute celui qui a partagé beaucoup des derniers instants de notre acteur. Son avocat, Michel Godeste, est ce matin l'invité d'Alba Ventura dès 7h40 et même François Langlais, quelques minutes auparavant, nous dira à quel point Jean-Paul Belmondo fut l'acteur de nos 30 glorieuses, ces années d'une économie heureuse et insouciante. Bref, ce matin, nous allons revivre nos plus belles années grâce à Jean-Paul Belmondo. Bonne journée à vous tous qui nous écoutez. RTL, il est 7h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Et parmi tous les hommages, on va entendre celui d'Alain Delon ce matin sur RTL.
Oui, l'autre monstre sacré du cinéma français, comme un alter ego pour Belmondo. Ils étaient surtout amis. J'ai perdu un compagnon de vie, dit Alain Delon ce matin sur RTL. Bebel faisait partie également de nos vies à nous, mais avant de devenir la plus grande star du cinéma français, il a aussi beaucoup galéré. Ses profs au conservatoire ne croyaient absolument pas en lui. Stéphane Boutsock va nous raconter comment il a fait même un bras d'honneur en 1956 au juré qui ne lui avait donné aucun prix. Nous serons dans ce journal au Café de l'Alma, dans le 7e arrondissement de Paris. Sa table y était toujours dressée le vendredi. Il avait même son plat attitré, le tartare façon Bebel. Et puis dans le reste de l'actualité, à la veille du début du procès du 13 novembre, on la surnomme déjà l'avocate du diable. À 31 ans, Olivia Ronan défendra Salah Abdeslam.
La politique, Olivier Bost.
Et on va parler d'Éric Zemmour, la seule nouveauté de cette campagne présidentielle qui commence.
Ce sera dès la fin du journal.
RTL Matin.
Au panthéon du cinéma français, ils trônaient tous les deux, tout en haut, côte à côte. Belmondo, Delon, indissociable monstre sacré, à la fois rival et ami. Il n'en reste plus qu'un depuis hier. Alain Delon qui s'est confié à Vincent Perrault pour RTL.
60 ans qu'on se connaît. On a débuté ensemble en 60 ans, on n'était personne dans La Faible Femme avec Mylène de Montjour. Enfin, ce 60 ans, 65 même. En 1957 ou 58, je ne sais plus exactement.
Vous savez de quoi on a l'air tous les deux?
Je sens que vous allez me sortir une image choc. Ça se voit, votre air absorbé.
On a l'air d'être son papa et sa maman.
On va faire un marché. Je prends le papa, vous faites la maman.
On n'était rien, c'était un ami de... d'enfance, c'est un... Je partageais ma vie, la carrière avec lui. La France partageait notre carrière.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que vos films, à lui comme à vous, représentaient la France dans le monde entier.
Enfin, pas tout, mais certains, oui. Ben, c'est normal, puisque c'est de la France, c'est quand même pas nous, c'est la France. Et la France, c'est pas n'importe quoi dans le cinéma.
Vous étiez quand même...
On était les deux seuls, hein, quand Gamin est mort. Il ne restait plus que nous. Et ça fait 60 ans qu'on fait ça. Alors, imaginez-vous ce que ça fait de perdre quelqu'un après 60 ans. Quand c'est un ami, un astre proche de vous et tout. Voilà. J'ai des souvenirs de ma carrière avec lui, de Borsalino en particulier, mais c'était formidable.
François, pourquoi tu t'en vas?
Parce qu'on est deux.
Tu comprends pas?
Facile à comprendre. Un jour ou l'autre, il n'en restera plus qu'un de nous deux. Vaut mieux que je m'en aille avant. On finira par se tirer dessus.
Maintenant, j'attends moi-même de mourir pour ne pas m'emmerder tout seul. Tout seul, quand vous êtes tout seul, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Non, et puis j'en ai eu beaucoup de compagnons de route, mais lui, c'est pas pareil. C'est un compagnon de vie.
La musique de Borsalino, la tristesse et les mots d'Alain Delon, ce film qui les avait réunis à l'écran pour un immense succès en 1970. Bonjour Stéphane Boutsock.
Bonjour à tous.
Vous nous accompagnez depuis hier évidemment pour rendre hommage à Jean-Paul Belmondo. Il était la plus grande star du cinéma français avec Delon et avec Depardieu peut-être. Et pourtant au début personne ne croyait en lui, Stéphane.
Non, c'est ce qui est fou, c'est qu'au départ tout semblait ligué contre Belmondo quand il s'obstine à entrer au conservatoire d'art dramatique. Des mois durant, il va travailler comme comme un forcené. Il est recalé deux fois au concours et puis finalement, il est admis. Pierre Dux, qui est alors un de ses profs, lui dit, j'ouvre les guillemets, « Avec la tête que vous avez, vous ne prendrez jamais une femme dans vos bras, ça ne serait pas crédible. » Bon, on peut dire qu'à l'écran, comme dans la vie, la suite a plutôt prouvé le contraire. Quatre années fondatrices au conservatoire, c'est la naissance de ce qu'on a appelé la bande à Bébel, Rochefort, Marielle, Rich, Crémer, Fabian, Vernier et les autres. Mais au concours de sortie, on est en 56, après une scène de Fedo, Jean-Paul obtient un simple accès-site, là où tous ses potes sont admissibles à la Comédie Française. Sous les vivas du public dans la salle, il est porté en triomphe par ses camarades. Il adresse un bras d'honneur retentissant aux profs qui l'ont jugé trop désinvolte. Et en fait, cet échec va lancer sa carrière au cinéma parce que trois ans plus tard, il tourne à bout de souffle de Godard.
Et ce physique difficile, entre guillemets, évidemment, dont vous venez de nous parler, finalement, ça va devenir son vrai atout à Jean-Paul Belmondo.
Il faut se souvenir de ce qu'étaient les canons de la beauté et du jeu à cette époque. On déclamait son texte de manière très théâtrale, c'est plutôt Gérard Philippe. On incarnait une beauté de statue grecque, c'est plutôt Jean Marais. Bah Belmondo, lui, il arrive avec un physique d'athlète, version boxeur. Il a le nez un peu de travers, il a de grosses lèvres, de la gouaille, il se marre tout le temps, il fait le zouave. C'est une vraie révolution, ce sera son style des décennies durant. Et puis surtout, c'est sa nature profonde. Faire ses propres cascades, c'est aussi ne pas tricher. Le Belmondo qu'on a aimé tous à l'écran, c'était aussi le Belmondo dans la vraie vie.
Merci beaucoup Stéphane Boutsock. Et sur ces débuts difficiles, on vous retrouve tout à l'heure, parce qu'il en avait parlé au cours d'une interview avec vous également sur, pas le sentiment de revanche, mais un petit peu quand même qu'il animait après ces années difficiles au conservatoire.
En tout cas, en vous écoutant, je me rends compte qu'on était fasciné par la beauté d'Alain Delon et par le charme de Jean-Paul
Exactement.
Belmondo. Alors, si le succès populaire est venu vite, Belmondo a souffert du manque de considération d'une partie du milieu du cinéma.
Au départ, en tout cas, il était même fâché d'avoir dû attendre 1989 pour décrocher le César du meilleur acteur dans L'itinéraire d'un enfant gâté. Il n'était pas venu d'ailleurs récupérer ce soir-là le trophée, mais tout était oublié en 2017 pour ce César d'honneur qui lui avait été remis. Jean Dujardin, Gilles Lelouch était là autour de lui, tous ces acteurs qu'il a énormément inspirés et ce discours bouleversant ce soir-là qu'il avait prononcé.
Ces films que vous avez vus ont pu se faire grâce à ma mère qui, tout jeune, quand je allais au théâtre, tout le monde trouvait que j'avais une sale gueule. Alors, une fois, ça va. Deux fois, ça va, trois fois, non. Alors ma mère m'a dit, tu dois être comme ton père, avoir du courage. Et je n'ai jamais manqué de courage, ce qui fait que je suis là.
Voilà. Jean-Paul Belmondo applaudit au César. Cette voix mal assurée, conséquence évidemment de l'AVC qu'il avait frappé en 2001, mais toujours cet humour et cette gouaille inimitable. Et tiens, pour le plaisir, écoutons donc ce dialogue savoureux de l'As des As.
Juif vous êtes ? Juif vous avez l'air ?
Faut mettre l'adjectif à la fin, pas au début.
Vas ?
On dit pas juif vous avez l'air, mais vous avez l'air juif. Si je vous dis con vous avez l'air, c'est pas français, c'est juste, c'est pas français.
L'As des As, musique de Vladimir Cosma, évidemment, un film de Gérard Houry, réalisateur qui a beaucoup contribué au mythe Bébel. Danielle Thompson, la fille de Gérard Houry, se souvient, elle, d'un homme toujours positif.
C'était une vie d'abord magnifique, et ça, il faut le dire, parce qu'il a été heureux, parce qu'il a voulu être heureux. C'est un homme qui avait ça en lui. Et cet AVC insensé, parce que c'est tombé sur la personne sur laquelle on s'attendait le moins, qui était il y a 20 ans, donc il a vécu depuis 20 ans quand même avec vraiment cette terrible, terrible handicap. Et pourtant, je pense qu'il y a eu des grands moments de bonheur et qu'il a transformé tout ça, encore une fois, en quelque chose de beau et de positif. Et il a d'ailleurs continué à être beau jusqu'au bout et positif jusqu'au bout, et ça c'est magnifique.
Les souvenirs et l'hommage là encore de Danielle Thompson au micro de Julien Cellier.
Jean-Paul Belmondo était rentré dans le cœur des Français grâce à cette personnalité infiniment chaleureuse.
Oui, et Gauthier de Lombugard s'est rendu hier dans le café de l'Alma dans le 7e arrondissement de Paris. Il y avait ses habitudes, il ne laisse que des bons souvenirs là-bas et même un plat de sa création, le tartare façon Bébel, Gauthier.
Quelques haies de buis finement taillées entourent la terrasse. Les serveurs dressent les élégantes nappes blanches et la vaisselle fine avant le service du soir. Ce bistrot chic est un lieu emblématique des beaux quartiers. Les célébrités parisiennes y ont leurs habitudes. Belmondo en avait fait l'une de ses cantines.
S'essayer juste ici, là.
Oui, juste là. Toujours avec son chien.
Oui, c'est Fabrice.
Tout à fait. Fabrice Cadier est le responsable du restaurant.
Toute personne qui vient ici sait que sa table-là est rarement disponible le vendredi.
Bébel a même marqué la carte de son empreinte.
Il aimait bien un steak tartare assaisonné.
dîner aller-retour avec un petit œuf. On l'a mis pendant très longtemps à la carte, l'aller-retour Jean-Paul Belmondo.
J'ai une petite faim. Un steak frit.
Christiane Boudon et son mari sont les propriétaires du Café de l'Alma.
Voilà, ils s'installaient. Généralement, le chauffeur arrivait, puis son frère, puis après ses copains. Il y avait Jean Rochefort, Jean-Pierre Marielle.
C'était quoi les discussions?
Cinéma, sport, peut-être des belles femmes. Et ça repartait sur le ciné aussitôt. Sur les dernières années, lui était hyper solaire, tonitruant même s'il était un peu abîmé.
La banquette sera désormais vide, les souvenirs vont s'installer.
Je me souviendrai de la table 20 du Café de l'Alma. Hein.
Le souvenir de ce rire, notamment.
On entendait rire, hein, c'était de l'autre côté. Hein.
L'éclat de voix d'un titi parisien érigé désormais au rang de légende dans les restaurants chics du quartier.
Reportage de Gauthier Delon-Bugard.
Je vous le rappelle, à 7h15, vous pourrez réécouter la dernière interview sur RTL de Jean-Paul Belmondo que nous avions menée avec Stéphane Boutsock et Bernard Lehu. On la surnomme déjà l'avocate du diable à la veille du procès du 13 novembre. Portrait de cette jeune avocate de 31 ans qui va représenter Salah Abdeslam. Ce sera dans quelques tout petits instants sur RTL. Merci de nous être fidèles. Il est 7h10. Bonne journée à tous.
RTL Matin.
Il est 7h11, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. Le procès du siècle commence donc demain à Paris, Olivier.
Oui, 9 mois d'audience pour tenter de comprendre comment se sont montés les attentats du 13 novembre et un accusé vers qui seront tournés tous les regards, Salah Abdeslam, seul survivant des commandos. C'est une jeune avocate de 31 ans qui va se charger, comme elle le peut, de la défense d'un homme qui n'a montré jusque-là aucune volonté de collaborer, Cindy Hubert.
La jeune pénaliste a tenu à rester dans l'ombre jusqu'au bout. Devenir l'avocate d'Abdeslam n'a rien d'un choix facile. Il faut se préparer aux menaces de mort, à la pression, à des retentissements sur sa vie privée. Mais rien de tout cela ne semble l'effrayer, non. Olivia Ronan nous le répète. Si elle a voulu rester discrète, c'est pour pouvoir travailler en toute sérénité. Grande bosseuse, exigeante, l'avocate est déjà intervenue dans des dossiers terroristes. C'est Salah Abdeslam qui a pris contact avec elle fin 2020. Depuis, les visites en prison s'enchaînent. Alors est-ce qu'ils ont passé une sorte de pacte? Abdeslam a-t-il promis de parler? L'avocate ne veut pas en dire plus. Ce qui est sûr, c'est que je n'y vais pas à tout prix, nous dit-elle. Olivia Ronan sait qu'elle va incarner pour beaucoup ce rôle maudit d'avocat du diable. Mais si elle a décidé de se lancer, c'est qu'elle est convaincue que les monstres n'existent pas et que n'importe quel être humain a le droit d'être défendu.
Merci Cindy Hubert, service police-justice d'RTL.
Nous en parlions hier, la mère d'un dealer va être expulsée de son HLM à Nice.
La ville là-bas assume cette responsabilité des familles, mais ça n'est pas une première. En 2012, une famille de Boulogne-Billancourt avait été elle aussi expulsée pour les mêmes raisons. Famille qui avait dénoncé à l'époque une double peine. Morad Jabari a retrouvé pour RTL l'une des filles de cette famille.
Alors que son petit frère est en prison pour trafic de stupéfiants, oui, le bailleur social décide d'engager une procédure d'expulsion. La famille est responsable, selon l'office HLM, d'un trouble de jouissance pour les autres habitants lié aux nuisances générées par le trafic dans la résidence. Maëlia Ali, ses parents et ses deux sœurs vivent alors dans la peur et l'angoisse d'être délogés à tout moment.
Ça nous a clairement détruit la vie. Infernal. C'est vraiment, ça vous bousille. Ça vous bousille. Les incidences que ça produit, autant financièrement que personnellement que psychologiquement, ça vous détruit.
Une double peine infligée à la famille, vécue comme une injustice, la procédure d'expulsion va alors durer plus de 10 ans.
Mes parents n'ont à aucun moment été reconnus complices des faits. Pourtant, c'est la famille qu'on attaque. Ce n'est pas en expulsant des familles que ça va s'arranger. Comme ces jeunes garçons ont été interpellés, qu'ils sont partis en prison, que les poursuites se poursuivaient pour ma famille, d'autres jeunes sont venus dans le quartier dealer. C'est de la chaise musicale en fait. On ne règle pas ce problème-là en expulsant.
Finalement, la cour d'appel de Versailles a annulé la procédure d'expulsion. Depuis quelques mois à peine, les parents de Maëlia ont de nouveau un bail de locataire pour le même logement.
Merci beaucoup Morad Jabari. Emmanuel Macron n'est pas encore candidat, mais la majorité s'active déjà. C'est une information RTL. La République En Marche va distribuer dès ce week-end 1 million de tracts pour défendre le bilan.
3 semaines après l'arrivée au pouvoir des talibans, la vie des Afghans n'est déjà plus la même.
Ils ont déjà annoncé, on l'a dit, que les femmes devront étudier séparément et en burqa. Les musiciens, eux aussi, sont à nouveau traqués. Marc Léman est en Afghanistan en ce moment pour RTL et il a rencontré ce chanteur traqué et menacé.
Les talibans, ils ont détruit la plupart de mes instruments. Ils menacent les musiciens. Alors comment on peut faire pour jouer de la musique? J'ai consacré toute ma vie à la musique. Si je veux avoir l'opportunité de continuer, j'ai pas d'autre choix, il faut que je fuie mon pays.
témoignage de ce chanteur menacé. Reportage complet tout à l'heure avec notre envoyé spécial en Afghanistan. Un mot pour terminer de l'équipe de France de football qui affronte ce soir la Finlande. Oui. C'est à 20h45 à Lyon. Toujours
attends qu'on marque un but.
Toujours en vue du Mondial au Qatar. Effectivement, Yves, les Bleus devront faire mieux pour se convaincre qu'ils savent encore gagner un match.
Ça, c'est sûr. Les courses, elles, ont lieu à Auteuil, Olivier.
Avec les pronostics de Dominique Cordier, le 7, le 16, le 5, le 8, le 12, le 3 et le 4. La dernière minute, c'est le 5.
Merci beaucoup. Le journal de 7h nous était proposé par Olivier Bois. Il est 7h15, la politique avec vous, Olivier Bost, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Olivier, vous nous dites qu'Éric Zemmour la joue comme Emmanuel Macron en 2017, alors là on veut bien des explications.
Alors, abstraction faite d'abord, hein, bien sûr, du fossé abyssal sur le plan des idées.
Merci de le préciser, oui.
Ah, c'est quand même un préalable. Mais il y a quand même des similitudes qui plaisent bien sûr beaucoup aux proches du polémiste. Oui, d'abord, comme Emmanuel Macron en 2017, Éric Zemmour, s'il est candidat, j'y reviendrai, est la seule nouveauté de cette élection pour l'instant. Mmh. Tous les autres, en attendant l'écrémage de cet automne par les primaires ou par d'autres modes de sélection naturelle, tous les autres candidats naviguent en politique depuis plus ou moins plusieurs décennies. Et ça, sur tout l'échiquier politique. La nouveauté crée donc toujours une curiosité qui se mesure dans les sondages. 7% d'intention de vote ce week-end pour Ipsos, 8% pour l'IFOP.
Mais on n'est pas surtout confronté à un engouement médiatique.
Oui, mais après tout, Emmanuel Macron en 2016 était aussi un phénomène médiatique avant de devenir un phénomène politique. Longtemps, Emmanuel Macron n'a pas dévoilé son jeu jusqu'à tromper et François Hollande. Éric Zemmour, lui, avance masqué depuis un moment pour parasiter le RN et les Républicains en même temps. Il devient à son tour un phénomène politique quand il contraint Marine Le Pen à une rencontre avec elle autour du maire de Béziers et quand il oblige tous les ténors de la droite un par un à dire ce qu'ils en pensent. Emmanuel Macron récupérait à ses débuts les élus délaissés du PS et les élus errants de parti en parti. Éric Zemmour, comme vous le révélait Marie Mollet hier matin sur RTL, récupère pour l'instant les infréquentables du RN ou les plus droitiers de LR.
Très franchement, est-ce que ça peut aller très loin toute cette histoire ?
Pas sûr, mais nous n'avons pas encore tout vu. Non. Un proche d'un candidat à droite redoute la sortie du livre d'Éric Zemmour dans 10 jours. Il redoute de voir des séances de dédicaces avec des fans hystérisés, donnant l'impression d'un irrésistible appel populaire. Mais attention, l'erreur serait de confondre des ventes de livres ou des audiences télé avec des intentions de vote. Nicolas Sarkozy en avait fait l'amère expérience.
Alors, où s'arrête votre comparaison avec le destin d'Emmanuel Macron là ?
Alors, Éric Zemmour est mine de rien très en retard pour organiser une campagne présidentielle. Au moins, je dirais même au minimum, 6 mois de retard. Il n'aura pas le temps, la pente est trop raide, décrit un responsable RN qui se rassure au passage. Et il ne sort pas, surtout Éric Zemmour, de sa vision crépusculaire d'un avenir absolument horrible et très théorique. À la même époque, l'outsider Emmanuel Macron avait lui un parti, déjà de l'argent et des équipes qui bossaient sur un programme sérieux. Il n'avait plus qu'à appuyer sur un bouton pour propulser sa candidature. L'alignement des planètes, le renoncement de François Hollande et la chute de François Fillon ont fait le reste. Pour Éric Zemmour, il y a déjà eu le renoncement de Laurent Wauquiez, mais c'est tout. Pas beaucoup d'entourage solide, peu d'argent, pas de ralliement sérieux. Le polémiste reste, pour l'instant, un phénomène médiatique.
Merci beaucoup Olivier Bost. À 7h40, c'est donc un très proche de Jean-Paul Belmondo qui se confie à Alba Ventura, maître Gilbert Godest, son avocat, mais surtout un très grand ami de Bebel. Dans un instant, nous allons retrouver Stéphane Boutsock, notre spécialiste cinéma à RTL, et nous allons entendre la toute dernière interview que Jean-Paul Belmondo nous avait accordée. C'était en octobre 2016. Nous étions allés chez lui à l'occasion de la sortie de ses mémoires. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin jusqu'à 9h30
avec Yves Calvi.
Il est 7h20, nous vous proposons à présent de réentendre un document exceptionnel. La toute dernière interview que Jean-Paul Belmondo nous avait accordée en octobre 2016. Stéphane Boutsock, nous avons eu la chance, vous, Bernard Lehu et moi-même, de nous rendre chez le comédien à l'occasion de la sortie de ses mémoires.
Oui, mémoire dont le titre résume parfaitement celui qui vient de nous quitter. 1000 vies valent mieux qu'une. Vous n'avez sans doute pas oublié ce moment, Yves. Ah, l'arrivée rue des Saint-Pères, rive gauche, Paris, cet hôtel particulier où Paul Belmondo nous accueille, nous conduit vers son papa. Jean-Paul trône dans un fauteuil en velours, pull-over rouge, crinière blanche, large sourire au milieu des photos de sa vie, des œuvres de son père, le sculpteur et peintre Paul Belmondo. Une heure de confidence, d'émotion, de rire aussi, beaucoup, à passer en revue les moments uniques d'une vie et d'une carrière. Et puis ce sentiment d'avoir face à nous
un éternel gamin.
Faut rester enfant, si on peut. Moi, j'ai pu.
Il y a quelque chose qui est très frappant, c'est la place qu'occupent vos parents dans ce livre. Votre maman, Madeleine, qui est très, très, très présente. Oui. Et puis votre père, moi, il y a une remarque qui m'a frappé. Je crois qu'on est en 80, c'est au moment de la sortie du Professionnel. Et votre papa vous dit, quand est-ce que tu vas faire enfin ton vrai métier? Il parle du théâtre, lui. Ça m'a frappé, cette réflexion. Voilà.
J'avais joué au théâtre tout jeune, à 17 ans. Et mon père attendait que je fasse un rôle, vraiment un rôle.
Ce que vous avez fait d'ailleurs. Hein.
Que j'ai fait, je sais.
Mais ça veut dire que votre père a en partie ignoré votre carrière au cinéma?
Ah non, non, non. Il allait voir les films avec plaisir. Mon père et ma mère étaient le meilleur public que j'ai vu.
Vous avez toujours eu un côté très physique, y compris plus tard dans votre jeu d'acteur, Jean-Paul Belmondo. Jeune, vous avez même failli devenir boxeur. Je vous cite, « Il faut avoir la rage, avoir souffert, avoir eu faim pour devenir boxeur, ce qui n'a pas été mon cas. »
Non, mais vous savez, j'ai fait des combats, les coups font horriblement mal. Je donnais bien les coups, mais je n'aimais pas le recevoir et je dis « on arrête ».
Alors, ce visage de boxeur, il vous a handicapé au début de votre carrière. Ah, oui. Quand vous prenez des cours de comédien, l'un de vos professeurs, Pierre Dux, vous dit « mais vous ne tiendrez jamais une femme dans vos bras au théâtre ou au cinéma ».
Vous savez, Dux, grand comédien, hein, je l'ai vu dans Cyrano, formidable. Et je me suis vengé. Un jour, je marchais sur les Champs-Élysées, j'avais Ursula à mes bras et je tombe sur...
Précise qu'il s'agit d'Ursula Andress.
Ursula Andress, voilà.
Une des plus belles femmes de l'histoire de l'humanité.
Et je vais vers Dux et je fais, on fait ce qu'on peut.
Mais alors, il y a quelque chose qui est frappant et qui vous caractérise. Quand on dit Belmondo, il y a le côté courage et ne jamais se décourager. Il y a un autre de vos profs de cette époque-là, c'est René Simon, qui vous dit à un moment, toi, t'es pas fait pour ce métier, tu ferais mieux de t'engager dans l'armée, ce que vous finirez par faire d'ailleurs.
Oui,
c'est incroyable cette réflexion.
Voilà, oui. Regarde ta tête. Hein. Tu ne peux pas jouer maintenant. À 50 ans peut-être, on rentre dans l'armée.
Et ce qui est hallucinant, c'est que vous l'avez fait.
Vous l'avez fait, oui.
Y compris la guerre d'Algérie.
Oui.
Jean-Paul Belmondo, parmi les monstres sacrés que vous avez croisés, il y en a beaucoup. Eh bien, il y a bien sûr Jean Gabin, un singe en hiver d'Henri Verneuil.
Monsieur Hainaut. Si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille.
Dis donc, petit malpoli, tu veux que je t'apprenne ?
Monsieur Hainaut, je vous interdis de tutoyer mon homme de bar. Je vous ai déjà dit que vous n'étiez pas de la même famille.
Alors pour un jeune acteur comme vous, le vieux Gabin, comme vous dites, il n'était pas facile. Et c'est, vous racontez que c'est la lecture du journal L'Équipe qui va vous rapprocher.
Oui.
À quoi ça tient ?
Il lisait Paris Teuf et moi L'Équipe. Et alors là, il a commencé à me parler. Et tu lis L'Équipe ? Oui, je l'ai. Oh, c'est... Et après, je suis devenu ami avec lui, comme il n'est pas permis.
Chez l'acteur Jean Gabin, qu'est-ce qui vous impressionnait le plus ?
C'est qu'il était dans la vie pareil qu'au cinéma. Parlait pareil.
Un peu comme et, vous ?
Oui, en moins bien, mais c'était hallucinant.
Donc son naturel, finalement.
Naturel.
Sur ce tournage-là, Jean-Paul, Gabin va dire à Verneuil quelque chose qui vous concerne, qui est un très joli compliment. Il dit « Maintenant, vous ne me direz plus, il nous faudrait un Gabin d'il y a 30 ans, vous l'avez, il parlait de vous. » Ça permet de parler de la relève. Aujourd'hui, vous, quand vous voyez les acteurs, la nouvelle génération, est-ce que, je ne sais pas, quelqu'un comme Jean Dujardin, oui, c'est la relève de Belmondo ?
Oui, je crois que c'est la relève. Il a un peu le style de moi, le style... Pas l'imitation, le style.
Vous le connaissez, Jean Dujardin ?
Oui, je le connais, c'est un ami et très gentil.
Et si on parlait d'Alain Delon ? On a dit beaucoup de choses sur vos relations, Jean-Paul Belmondo. Comment vous parleriez de Delon aujourd'hui ?
On a dit des tas de choses sur Delon et ce n'était pas vrai. J'ai tourné Borsalino et il était producteur et... Il y a eu un seul incident, on mettait Belmondo et Delon. Il a rajouté...
Produit par Alain Delon.
Sans me dire, sans rien. Je me suis passé, mais j'ai gagné le procès.
Ah, quand même.
Et après, jamais rien de méchant entre nous. C'est un frère de cinéma, c'est mon bon frère.
La musique de Borsalino de Jacques Deray, 70, musique signée Claude Bolling. 1000 vies valent mieux qu'une, l'autobiographie de Jean-Paul Belmondo. Relisez-la, il est toujours temps, hein. C'est paru chez Fayard. Je me souviens, Yves, que nous avions quitté tous les trois avec Bernard la maison de Jean-Paul Belmondo, le sourire aux lèvres, avec la sensation de quitter, alors non pas une légende de cinéma, ce qu'il était évidemment, mais un type normal qui avait été à la fois gâté et cabossé par la vie.
Presque un ami. Faut rester enfant si on peut, moi j'ai pu. C'est la première phrase que vous dit Jean-Paul Belmondo dans cet entretien. C'est avec beaucoup de bonheur que nous l'avons retrouvé ce matin. Merci infiniment Stéphane de nous avoir fait réentendre cette voix de Jean-Paul Belmondo. Notre matinale hommage se poursuit, bien entendu, puis à 9h dans Laissez-vous tenter. C'est Claude Lelouch qui viendra en direct nous raconter son ami Bébel. Et puis je vous annonce cette soirée spéciale ce soir sur Paris Première. Elle est aussi exceptionnelle. Rendez-vous dès 20h55 avec deux grands films, Le Marginal de Jacques Deray, à 22h45 L'Héritier de Philippe Labro. Et pour rendre hommage à Bébel, deux documentaires suivront, Belmondo l'influenceur et Belmondo le goût du risque. Rendez-vous donc dès 20h55 sur Paris Première. Dans un instant, nos grosses têtes et la météo de Louis Bodin.
Yves Calvi, RTL Matin.
Et si nous retrouvions nos grosses têtes, elles vous donnent rendez-vous en tout cas dès 15h30, toute l'équipe de Laurent Ruquier. Ça parle foot ce matin, foot et président de la République.
Le 14 octobre prochain, Monsieur Macron jouera au foot.
Qui dans l'équipe d'en face? Alors, est-ce qu'il y a Marine Le Pen, par exemple?
Ce serait pas mal de faire un match uniquement avec les candidats à la présidentielle.
Mais oui, plutôt que de faire des débats.
Ah bah l'arbitre, c'est Zemmour, forcément. Ce sera
l'arbitre, c'est possible.
Sandrine Rousseau, je vois bien Sandrine Rousseau pleurer dès qu'on la touche.
Et Mélenchon qui gueule sur toutes les fautes d'arbitrage. Tu connais, il n'y a que les fautes d'arbitrage, il remet tout en cause.
Mélenchon, carton rouge.
Et dans les tribunes des gilets jaunes, que des hooligans.
Ah oui, il va y avoir
le match de rêve.
Envahissement de terrain, envahissement de terrain.
Vous demandiez qui était le sélectionneur, c'est Hidalgo, évidemment.
Bah oui,
Hidalgo, bah oui, c'est logique.
Michel.
Ils sont en très grande forme et vous donnent rendez-vous de 15h30 à 18h avec Laurent Ruquier et quand vous le voulez en podcast sur RTL.fr. Bonjour cher Louis Bodin.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
C'est la plus belle journée de la semaine ?
C'est la journée la plus chaude en tout cas de la semaine. Je ne sais pas si on peut dire belle parce qu'il y en a qui vont me dire oh, il fait trop chaud. Ça y est, il fait trop chaud maintenant. Oui. Donc,
mais c'est vrai qu'il va faire. Hein, tout le monde
mais c'est vrai qu'il va faire très chaud quand même cet après-midi. 28 à 33 degrés au nord comme au sud. On ira même localement jusqu'à 35, 36 degrés à Cognac, à Nantes. On aura 32 degrés à Brest quand même cet après-midi. 31 à Paris, 36 degrés probablement autour de la vallée de la Garonne. Tout ça avec encore beaucoup de soleil. Un petit voile nuage un petit peu plus épais cet après-midi près de la Bretagne, près de l'Atlantique en descendant vers les Pyrénées. Petit risque d'inverse en montagne sur les Pyrénées, les Alpes et la Corse. Et puis quand même quelques entrées maritimes, quelques nuages poussés par le vent d'OTAN autour du golfe du Lion.
Merci beaucoup Louis Bonin, merci à vous qui nous êtes fidèles et qui nous écoutez. RTL, il est 7h30.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h30, Tout Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 7 septembre. Bonjour Isabelle.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Une voix s'est éteinte et elle va nous manquer.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre.
La gouaille et le charme désinvolte de Jean-Paul Belmondo dans À bout de souffle de Godard, le film qui va le faire connaître. Il y en aura des dizaines d'autres, La Nouvelle Vague, mais aussi les comédies bondissantes, les polars à grand spectacle, et puis un trou d'air dans les années 80. Et c'est Claude Lelouch qui lui a offert le rôle qui l'a relancé, Sam Lyon dans Itinéraire d'un enfant gâté en 1988, César du meilleur acteur. Claude Lelouch qui gardera le souvenir d'un Bébel éternellement joyeux.
Il avait un sourire dévastateur qui faisait que il était positif, positif, positif dans un monde où le négatif est tellement fort. C'est pour ça qu'il a eu tant de succès. Il nous donnait la pêche tout le temps. Bref, c'est un homme qui a plus dit oui que non. On prenait du plaisir à l'écouter. Je veux dire que c'était vraiment l'acteur de tous les acteurs et en même temps, c'était tout sauf un acteur puisqu'il était dans la ville, il était proche des gens et voilà, je pense qu'il va manquer au cinéma, mais comme sa disparition va déclencher une ruée sur tous ses films, il va y avoir de la joie de vivre sur tous les écrans pendant très longtemps. Il est vraiment immortel. Voilà. Et s'il y a quelqu'un qu'on devrait mettre au Panthéon, c'est lui.
Claude Lelouch que l'on retrouve dans Laissez-vous tenter avec Stéphane Boutsock dès 9h sur RTL.
Belmondo au Panthéon, on dit Claude Lelouch, mais pour son ami Michel Bougenat, il était lui-même un monument du cinéma français, bien sûr.
Les gens ne meurent pas tant qu'on les oublie pas. Donc il faut qu'on continue à rigoler, qu'on continue à l'aimer. Et c'est impossible d'oublier Jean-Paul, parce que Jean-Paul, c'est C'est comme l'Arc de Triomphe, c'est notre tour Eiffel à nous, c'est notre triomphe à nous dans notre métier. Et pour le public aussi, je suis évidemment inconsolable, mais je refuse d'être triste. Et je me souviens de la dernière fois où je l'ai vu, où j'ai cherché mon téléphone pendant 3 quarts d'heure parce qu'il me l'avait caché. C'était il y a un peu moins d'un an.
Michel Bougenat avec Julien Cellier, la joie de vivre de Jean-Paul Belmondo, son éternel sourire, sa simplicité aussi. Voilà ce qui en faisait l'un des acteurs français les plus populaires, toutes générations confondues. Laurent a 40 ans, il est fan absolu.
Bébel est parti et c'est bien triste. Mais quand vous avez quelqu'un comme ça qui a traversé toute votre vie, son côté idole, son côté bondien, mais en même temps comme dans la vraie vie, ah, le magnifique Bob Sinclair. Autour de la piscine, lorsqu'il est interpellé par Jacqueline Bisset, tu lui dis...
Vous refusez aux femmes.
Je ne sais pas.
Menteur.
Exactement. J'ai envie de dire, il reste toute son œuvre, donc... On va mettre les DVD, j'allais dire, dans le magnétoscope et on va regarder ça avec délectation.
Ouais. Témoignage recueilli pour RTL par Vincent Serrano. Belmondo, c'était évidemment un style, une voix, une gueule aussi. Cette gueule de boxeur qui lui avait valu quelques remarques désagréables à ses débuts. L'acteur avait pratiqué dans sa jeunesse. Et il était même capable de prendre un avion pour aller voir un beau match au Madison Square Garden à New York. Le champion olympique français Tony Yoka l'avait rencontré.
Il est venu à pratiquement tous mes combats de boxe et des professionnels. Mais moi, je garderai que des bons souvenirs de lui. Tu vois, je fais 2 mètres, mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'étais à côté de Monsieur Belmondo, je me sentais petit parce que c'est juste l'homme, en fait. L'humain, il était tellement imposant et grand que voilà, t'avais juste envie de l'écouter parler, en fait.
Tony Yoka au micro RTL d'Isabelle Langer. Belmondo, le sportif, était devenu Belmondo, le cascadeur. On le sait, il ne se faisait pas doubler et il en a eu des scènes dangereuses dans les innombrables polars qu'il a tournés dans les années 70, l'époque Toc Toc Badaboum, caricaturé par les Guignols. Belmondo a joué les flics. Belmondo aimait les flics. Il venait régulièrement au 36 quai des Orfèvres. Le patron de la PJ, Christian Sainte, a accepté d'en parler à Guillaume Chiez pour RTL.
C'était vraiment un ami de la police et de la PJ parisienne en particulier. Mais j'ai envie de vous dire, moi, comme simplement à 61 ans, c'est un acteur qui m'a fait rêver quand j'étais ado, vous voyez. Donc, ça touche énormément, forcément. Enfin, j'imagine parfaitement qu'il a pu inspirer, servir de modèle pour certains. Il est présent, il a eu des occasions de venir pour voir les gars, notamment la brigade de recherche et d'intervention. Dans la mesure où c'est quelqu'un qui aime les policiers, qui aime l'institution policière et que les policiers sont des grands affectifs, on perd un grand ami de la maison.
Le patron de la PJ avec Guillaume Chiez. Et depuis hier, évidemment, c'est une pluie d'hommages. Emmanuel Macron salue un trésor national tout en panache et en éclat de rire. Nous nous retrouvions tous en Jean-Paul Belmondo. Voilà ce qu'écrit le président.
Il est 7h35. L'actualité, c'est aussi le procès des attentats du 13 novembre 2015 qui s'ouvre en fait demain à Paris, Isabelle.
14 personnes dans le box des accusés, mais un homme concentre toutes les attentions. C'est Salah Abdeslam, unique survivant des commandos terroristes qui ont fait 130 morts au Bataclan, au Stade de France et aux terrasses des cafés. Depuis 6 ans, il se tait, mais il reste visiblement totalement radicalisé. C'est ce qu'a pu constater Aurélie Bollin, qui l'a côtoyé comme surveillante à la prison de Fleury-Mérogis.
Il a très peu changé. Dès son arrivée, il était très mutique. Il est toujours. Il discutait avec sa famille, mais avec le reste, pas du tout. Hein. Il y a eu nombre d'extractions pour pouvoir voir le magistrat et c'est toujours la même chose. Il ne parle pas. Il ne parle pas aux agents, même si c'est toujours la même équipe dédiée qui s'en occupe. Donc, très peu d'espoir que les choses se passent bien lors du procès et qu'il dise enfin ce qui s'est réellement passé. Moi, j'ai déjà entendu des conversations qu'il a eues avec sa famille et pour moi, il est toujours dans la même idéologie. Malgré ses années avec le recul, je ne pense pas qu'il y ait eu un changement en lui.
Propos recueillis par Cindy Hubert. Au chapitre politique, Emmanuel Macron n'est pas encore candidat à la présidentielle, mais La République En Marche prépare le terrain. RTL vous le révélait dès hier soir, 1 million de tracts vont être distribués dans toute la France dès ce week-end. Des tracts pour défendre le bilan du président. Le football, le dernier match de rentrée pour les Bleus ce soir contre la Finlande. C'est la suite des éliminatoires du Mondial 2022. Un match qui signe le grand retour de Karim Benzema sur ses terres à Lyon. Un match pour rassurer aussi après 5 rencontres consécutives sans victoire. Le capitaine Hugo Lloris espère un sursaut.
Je crois qu'il y a un manque de confiance, ça c'est évident. On s'est fait peur, maintenant on attend une réaction. Et ça doit se sentir dès le début du match, se servir également de l'énergie positive dans les tribunes, parce qu'on est attendu par nos supporters. Et on espère vivre une soirée positive, que le match se passe de la meilleure des manières.
Hugo Lloris au micro RTL de Philippe Sansfourche. Des nouvelles du roi Pelé. La légende du foot a été opéré d'une tumeur suspecte au côlon pendant le week-end. Il a donné de ses nouvelles hier soir sur les réseaux sociaux. Grâce à Dieu, je vais bien, dit-il. Je vais jouer ce nouveau match avec le sourire et beaucoup d'optimisme.
Le Tout Info nous était proposé par Isabelle Choquet et on se retrouve à 8h40, bien entendu, pour la face cachée de la Une,
et
Isabelle.
Ce matin, ce sera forcément là tout à l'heure.
Bonjour François Langlais.
Bonjour Yves.
Il est 7h37 et la disparition de Jean-Paul Belmondo vous rend nostalgique des 30 Glorieuses.
Oui, année d'une croissance mais absolument incroyable. C'est celle d'un pays émergent d'aujourd'hui qui coïncidait exactement avec les débuts du monstre sacré du cinéma français. Alors on va s'y replonger l'espace de quelques instants.
Avec grand plaisir. A tout de suite pour l'Angle Écho avec François Langlais et ce matin Jean-Paul Belmondo.
RTL Matin, Yves Calvi.
Il est 7h39, l'Angle Écho avec vous François Langlais.
Bonjour à tous.
Pour les Français, Jean-Paul Belmondo est sans doute la meilleure incarnation de cette époque qu'on appelle les 30 Glorieuses, François.
Oui, 30 années de prospérité qui débutent à l'après-guerre et se terminent en 75. Leur apogée coïncide avec le début des succès de Belmondo, les films de Godard dans les années 60, extraordinaire période. Au plan économique, au moins tout n'était pas rose, il y avait aussi la guerre d'Algérie, mais extraordinaire période où, selon Jean Fourastier, l'économiste français qui l'a baptisé justement 30 Glorieuses, la France change autant que durant le siècle précédent, voire, dit-il, sur certains critères, autant que de 1700 à 1945.
Bon, ça paraît ahurissant. Quels sont ces changements alors ?
Rattrapage économique considérable avec des taux de croissance, tenez-vous bien, annuels, compris entre 5 et 10% dans les années 60, par exemple. La France d'alors, c'est un peu la Chine des années 2000, c'est pareil. Pour vous donner une idée de la formidable accélération du niveau de vie des Français, les salaires sont multipliés par 15 entre 1946 et 75, beaucoup plus que les prix. Conséquence, le pouvoir d'achat est multiplié par presque 4 en 30 ans, du jamais vu dans l'histoire, jamais, que nous n'avons d'ailleurs jamais revu depuis.
Bah alors c'est cela qui donne naissance à la fameuse société dite de consommation ?
Oui, bien sûr. En 62, d'ailleurs, le premier supermarché Carrefour est ouvert en région parisienne. C'est l'électroménager qui arrive dans les foyers. Le réfrigérateur, le lave-linge, la voiture. C'était un bien de luxe au sortir de la guerre. 450 000 unités dans le pays en 1946. Plus de 10 millions en 1976. Sur ces 30 ans, le nombre de logements double. Il passe à 21 millions, ce qui permet la décohabitation des générations. Les jeunes couples, au lieu de vivre chez leurs parents comme avant, peuvent s'installer chez eux. Ça change tout. Et surtout, le confort des logements s'améliore. En 1946, seuls 5% des logements possèdent une salle de bain, 37% ont l'eau courante. Ils seront 97% en 1976.
Bon, alors ces chiffres sont étourdissants. Est-ce qu'on ne travaillait alors pas beaucoup plus qu'aujourd'hui ?
Si, vous avez raison. En moyenne, c'est 2000 heures par an. Aujourd'hui, c'est 1500, entre 1500 et 1600. Donc, vous voyez, c'est assez différent. La semaine de l'époque, elle fait 46 heures. On n'est pas à 35 heures. Et on n'a que 2 à 3 semaines de congés annuels. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que la durée de la carrière commence déjà à rétrécir au profit des études pour les jeunes et puis de la retraite pour les seniors. Juste après-guerre, figurez-vous, 2,5 millions de Français de moins de 20 ans sont au travail. 2,5 millions. Ça ne sera plus qu'un million 30 ans plus tard, en 75. Et idem avec les plus de 65 ans au boulot, dont le nombre est divisé sur la période par 3.
Alors, au bout du compte, comment s'explique cette période de croissance tout à fait inhabituelle ?
Écoutez, pour l'économiste Fourastier, tout tient en un mot, c'est la productivité. Et productivité, c'est le fait que chacun d'entre nous produit beaucoup plus qu'auparavant. Grâce à quoi ? La mécanisation, les nouvelles techniques de production industrielle et d'organisation des entreprises, tout ça venu des États-Unis. Et puis, bien sûr, on l'oublie, mais c'est central, l'utilisation massive et universelle de l'énergie. Pétrole, électricité, qui se substitue au travail humain et animal. Du coup, chacun produit bien davantage, ce qui permet à la fois d'augmenter les salaires, de diminuer le temps de travail, tout en augmentant le nombre d'emplois. Et c'est le choc pétrolier des années 70, puis la première crise de 75, qui sonne la fin de cette époque. La cause véritable du changement de régime, c'est tout simplement que la France et l'Europe, elles ont alors terminé leur rattrapage. Déjà, les pays émergents pointent, ils vont livrer une concurrence féroce à nos industries, le textile, la sidérurgie en particulier. Mais la carrière de Jean-Paul Belmondo, elle, contrairement à l'économie française, connaîtra encore 30 autres glorieuses.
Merci.
beaucoup François Langlais d'avoir associé Belmondo aussi à votre rendez-vous économique. C'était passionnant. Il est 7h43. Bonjour Alba Ventura.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Votre invité ce matin,
Maître Michel Godeste, l'avocat et ami de Jean-Paul Belmondo. Il est resté avec lui jusqu'à la fin. Tiens, quel hommage national pour Bébel.
A tout de suite avec Michel Godeste, un invité d'Alba Ventura ce matin.
RTL Matin.
Avec Yves. Ils sont là.
RTL Matin. Avec Yves Calvi.
Il est 7h44, très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin un très proche de Jean-Paul Belmondo, Maître Michel Godeste.
Bonjour Michel Godeste.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RTL ce matin. Vous avez accompagné en tant qu'avocat et ami avec sa famille Jean-Paul Belmondo jusqu'à son dernier souffle. Comment vous avez vécu ce moment, Michel Godeste ?
Écoutez, j'ai à peine dormi.
L'émotion. Non, mais l'émotion vous envahit encore et on le comprend. Vous saviez que c'était la fin ? Vous n'y étiez pas préparé ?
Si, bien sûr. Depuis quelques mois même, et encore plus ces derniers jours, notre Jean-Paul est devenu faible, très faible. On avait du mal à communiquer avec lui. Mais voilà, une fois que la réalité concrète arrive, vous savez, moi je suis un Parisien pur jus, un petit parigot de Montmartre, comme lui. Enfin, lui, il n'était pas de Montmartre, il était d'enfer. Mais c'est un peu comme si on me retirait, on nous retirait. Aujourd'hui, l'Arc de Triomphe ou Notre-Dame.
Bien sûr.
La France sans Jean-Paul, c'est un manque terrible. Et moi, c'est à la fois la personnalité, mais c'est surtout l'ami. Parce que c'est un gars, c'est de bon ton de dire ça maintenant, mais c'est la vérité, qui était tellement chaleureux, j'ai eu tellement de moments fous, de rire. Il avait une telle présence et des telles vibrations, dirais-je, que là, maintenant, quand on réalise que c'est fini, qu'il n'y aura plus Jean-Paul, bah, c'est pas facile.
Vous dites qu'il était toujours positif, toujours optimiste. Il n'y avait jamais de coup de mou chez lui ?
Oh, écoutez, je me souviens une fois, on était à un restaurant à la Porte Maillot avec son frère Alain. Tous les deux sont vraiment très très liés, très attachés. Puis on voyait qu'il faisait des grimaces par moments à table. Il lui dit, mais t'as quelque chose ? Il me dit, oh, ouais, j'ai mal depuis quelques jours. Je lui dis, mais pourquoi tu nous dis rien ? Bah, parce que voilà, ça m'occupe en se marrant. Je lui dis, mais ça va pas, non ? On va essayer de voir pourquoi, te guérir, que t'ailles mieux. Jean-Paul, il se plaignait jamais. Mais moi, ça fait des dizaines d'années que j'étais près de lui. Je ne l'ai jamais vu une fois se plaindre. Jamais une fois. C'est la vérité, ça. C'est pas des racontards.
Et dites-moi, Michel Godeste, il vous arrivait de parler de la mort avec Jean-Paul Belmondo ?
Oui, oui, j'en avais parlé, puisque à un moment, il était question de faire une expo sur lui. Et je voulais faire un beau papier. Et je lui ai dit, bah, écoute, je vais poser plein de questions. Mais il me dit, bah oui, viens avec ton appareil et tout ça. Bon, après, ça n'a pas eu lieu, mais parmi les questions, je lui parlais de ça. Et il était très serein. Il était très serein et comme d'habitude, il en plaisantait. Il en plaisantait. Et je lui dis, écoute, est-ce que tu n'aurais pas un message à transmettre que je pourrais lire le moment venu ? Il me fait, oh non, moi aussi, qu'est-ce que vous foutez là, tous, là, à l'église ? Enfin, c'était tout le temps des trucs de genre-là, quoi.
Vous dites à l'église, il croyait en Dieu ?
Ah oui, c'était important pour lui, oui. C'était important. Jean-Paul, c'était pas uniquement quelqu'un de matérialiste, mais même s'il le montrait pas comme ça, il avait une autre dimension.
Vous dites qu'il mérite un hommage national, Michel Godeste. Comment vous voyez les choses ? Est-ce que, d'ailleurs, l'Élysée vous en a déjà parlé ? Est-ce que l'Élysée prévoit quelque chose ? Est-ce que vous le savez, tout ça ?
Non, je ne m'en suis pas occupé. Je suis en relation toujours très étroite avec la famille, évidemment. Mais ça, j'ai voulu les laisser un peu tranquilles aussi hier. Je sais que Paul, le fiston, s'occupe de tout ça. Je sais aussi que notre président était très proche de Jean-Paul. Ils se sont vus pas mal ces derniers temps. Emmanuel Macron lui a envoyé des messages. Donc, je sais pas, quelque chose est en train de se préparer.
Ils étaient en contact avec le président ?
Oui, oui, régulièrement. Régulièrement, oui. Régulièrement, oui, oui. Et Macron l'a décoré il y a quelques temps.
Oui.
Ça avait été une très, très belle cérémonie à l'Élysée. Mais indépendamment de ça, ils se sont vus, oui. Jean-Paul voulait pas trop que ça se sache, parce que voilà, il est quand même d'un naturel discret. Mais je sais qu'ils se sont vus plusieurs fois, oui.
Et vous aviez évoqué ces adieux avec lui. Je crois que vous aviez parlé de... Il voulait que son cercueil soit emmené en hélico, c'est vrai ?
Non, c'est vrai. Mais je vous dis, Jean-Paul, c'était un farceur. Oui. Et je lui avais dit, mais... Et je trouve aussi que c'était juste après l'enterrement de Johnny. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que tu aimerais et tout. Il me dit, oh, je sais pas. Enfin, il disait des bêtises. Puis après, il me dit, si, j'ai pensé à quelque chose. Tu vois, j'aurais mon cercueil qui serait emporté par un hélicoptère. Et là, il y aurait un petit trou, je passerais ma main, puis je dirais au revoir.
Il était facétieux. Il avait dit, oui. Michel Godès, il avait dit à la cérémonie des Césars en 2017, je n'ai jamais manqué de courage. Et il disait aussi, réussir, c'est insister. C'était ça qui le caractérisait, autant de courage, notamment.
Le courage, et puis je réponds un petit peu à côté, surtout Jean-Paul, et ça il l'a dit plusieurs fois, et c'était son père. Oui. Qui lui disait, mon fils, ce qu'il faut, c'est du travail, encore du travail. Et Jean-Paul, c'était ça. C'est curieux parce qu'à la fois, bon, moi, j'étais sur tous ces tournages, j'étais au théâtre, j'étais dans sa loge régulièrement. Il était, c'est vrai, on l'a dit, mais super décontracté. Et quelques secondes quasiment avant qu'il y ait le clap de commencement, il était en train de faire l'idiot, de donner des coups de savate à Charlie, son maquilleur. Donc il était décontracté, mais en même temps, il travaillait dur. Oui. Moi, j'ai été le voir à Marigny quelques jours avant le spectacle, et il y avait certains comédiens, bon, qui n'étaient pas tout à fait au point. Et lui, dès le premier jour, ça, Robert Hossein, quand il était là, aurait pu vous le dire, il connaissait son texte, mais parfaitement. C'était un grand travailleur d'un sérieux terrible. Quand Jean-Paul était le patron du Théâtre des Variétés, il était exigeant sur la qualité du spectacle, hein, avec ses amis comédiens.
Il voulait rejouer, paraît-il. Enfin, on sait que avec Fabien Ottoniente, le réalisateur de Camping, il y avait eu une proposition. Il avait aussi dit oui à Claude Lelouch pour tourner la suite d'Itinéraire d'un enfant gâté. C'était raisonnable. Ouais. C'était raisonnable.
Bah ça, je crois que c'était surtout des souhaits très vifs des réalisateurs, quoi, qui avaient envie d'avoir Jean-Paul avec eux, mais. C'était pas facile pour lui, quoi. Surtout depuis son AVC, les choses n'étaient pas faciles quand même. Hein.
Il avait des regrets, Michel Godeste ?
Oh là là, oui, terriblement. Moi, je me souviens que peu de temps après son accident, ça fait quand même 20 ans, on était ensemble au restaurant avec Nati un soir. Nati part aux toilettes, il me prend par le bras et puis il me dit « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il y a ? Je peux plus rien faire ». Je lui dis, mais Jean-Paul, arrête, regarde comment t'es et tout, tu fais des progrès tous les jours. Mais pour lui, il me dit, mais et le cinéma et le théâtre, c'était vraiment sa vie, quoi. Et ça, d'être diminué pour ça, pour cette activité-là, il en était fou, quoi. Ouais. Il en était fou. Et
mais
ça.
Oui.
Oui.
Malgré tout, mais... il n'était jamais blasé.
Non,
c'est
pas du
un
tout.
Homme blasé.
Oh, mais pas du tout. Ça. Il a un plaisir de vivre, ça aussi. Il l'a dit, il redit. Moi, il me l'a dit entre nous aussi. Quand je suis né avec le moral et je l'ai toujours gardé. Mais c'était ça, notre Jean-Paul. C'était exactement ça. Hein.
Vous avez quel souvenir précis de lui ?
Oh, moi, j'ai le souvenir.
Même si vous
des...
en avez.
Oui,
beaucoup.
Je ne saurais pas quoi choisir, mais des souvenirs au restaurant où il faisait l'andouille, on se marrait, on prenait un petit verre, il me disait, allez, moi, des fois, je ne voulais pas trop boire, parce que l'après-midi, je travaillais quand même à mon cabinet. si, allez, Limoncello, encore. Puis, j'étais tellement pris par l'ambiance que c'était fou.
C'est vrai qu'il était d'origine souvenirs. Italienne.
Ah oui, oui.
Limoncello.
Ah oui, oui. Oui, oui. Puis, tout le sport, on faisait du vélo ensemble. Et là, on avait des parties de rire, et des fois, et puis c'était vraiment un sportif terrible. Je me souviens de certains jours, et avec son fils Paul, lui, on jouait pas dans la même cour avec Paul. Paul, c'est un cycliste de premier ordre. Mais il nous avait emmené une fois, j'étais parti avec Paul, faire des balades dans la région, autour de Longchamp. Il dit, oh, Paul, il dit, on reste pas à Longchamp, c'est pas drôle, et tout ça. Ben, il nous a tués. Et Jean-Paul, il avait une solidité, mais terrible.
En tout cas, un grand, grand, grand merci, Michel Godès, d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir partagé ces moments de vie que vous avez vécu aux côtés de Jean-Paul Belmondo, d'avoir salué sa mémoire. Merci beaucoup.
Merci.
À bientôt.
Merci. Bonne journée.
Merci.
C'est un petit peu comme si on nous retirait l'Arc de Triomphe ou Notre-Dame. Il ne se plaignait jamais, il croyait en Dieu et avait une autre dimension, nous a notamment dit Michel Godès dans cette interview. Merci beaucoup Alba Ventura, merci à Laurent Lecor qui était aux côtés de notre invité. Nous vous donnerons justement, puisque vous l'avez évoqué avec lui, des détails avec Olivier Bost sur ce que prépare la famille avec l'Élysée dès le début de notre journal de 8h pour dire au revoir à Jean-Paul Belmondo. Bonne journée sur RTL. Dans un instant, nous poursuivons notre matinale spéciale avec l'œil de Philippe Cavrivière.
RTL. L'œil de Philippe Cavrivière.
Bonjour cher Philippe.
Bonjour.
Bien sûr, vous allez nous parler de la disparition de Jean-Paul Belmondo.
Jean-Paul Belmondo est mort. Excusez-moi, j'ai pas trop suivi l'actu.
Oui.
C'est terrible, parce que vous m'annoncez quand Johnny va apprendre ça en plus. Vous avez vu cette performance d'acteur?
Oui.
C'est bluffant.
Exceptionnel.
C'est Jean-Paul Belmondo qui m'a donné envie de faire du cinéma. Malheureusement, aucun réalisateur n'a eu envie que j'en fasse.
C'est étrange. Alors,
toutes
les radios, toutes les chaînes d'information en continu sont en boucle sur cette disparition, car c'est un monument du cinéma qui s'en va, Philippe.
Alors, il faut bien l'avouer, la mort de Jean-Paul Belmondo a un chouï éclipsé la disparition du footballeur Jean-Pierre Adams. J'aimerais dire un mot de Jean-Pierre Adams, oui. C'est de sa magnifique épouse qui est restée près de lui pendant ses 39 années de coma. C'est fou comme preuve d'amour. Moi, je regarde ma compagne dormir au bout de 20 minutes. J'ai envie de me barrer et de sortir rejoindre mes potes. 20 minutes, 39 ans. En tout cas, permettez-moi ici d'embrasser toute la famille Adams.
Bon, alors revenons à nous nous associons bien entendu à cet hommage. Revenons à Jean-Paul Belmondo. Tous ses amis proches le disent. Jean-Paul était constamment joyeux. Il n'aurait pas aimé qu'on soit triste aujourd'hui.
J'ai entendu ça. Alors, il est marrant, Jean-Paul, mais je ne vois pas beaucoup d'avantages à son départ. Alors, à la limite, si, il y a une loge qui se libère à Roland-Garros. Alors, on ne le sait pas forcément, mais Jean-Paul a frôlé la mort à plusieurs reprises. Ce n'est pas pendant des cascades, mais c'est justement en allant supporter des tennismen français Porte d'Auteuil. Il a pris une balle perdue de Henri Lecomte en 88 et une de Richard Gasquet en 2015. Plus sérieusement, Jean-Paul Belmondo a connu de nombreuses épreuves. Bien sûr, il y a son AVC, mais la pire reste évidemment le film qu'il a tourné sous la direction de Francis Huster. Un film dont on peut le dire, il ne s'est jamais vraiment remis, et le public non plus.
Bon, écoutez, Belmondo a une filmographie incroyable. Il a tout exploré dans le cinéma d'auteur avec Godard, le cinéma populaire avec des films d'action à grand succès. Qu'est-ce que vous voulez rajouter?
Alors, Jean-Paul Belmondo choisissait bien ses films, mais mal ses chiens, parce que franchement, le Yorkshire Kiki dans 1,2 kg, ça n'allait pas du tout avec son physique.
Il était pas Jojo.
On l'aurait vu avec un berger allemand, un husky, mais pas un chien de mamie à cheveux bleus. Bon, l'avantage, il pouvait mettre son chien et son flingue dans son froc, mais c'est le seul avantage. Vraiment.
Bien, alors sans transition, l'autre actu qui vous a interpellé, c'est l'histoire de cette famille qui pourrait être expulsée de son HLM à Nice, car un des enfants est dealer.
Faites des gosses, qu'il disait. Alors, tout le monde semble engueuler la mère, je pense qu'il faut engueuler le fils. Je pense, madame, que votre fils est un mauvais dealer. Croyez franchement que la mère de Pablo Escobar, Jacqueline Escobar, crêchait en HLM? Je ne crois pas, non. Elle était en pavillon, Jacqueline Escobar, avec piscine, jacuzzi, éboué et à flamant rose. Alors, faut bosser un peu plus, gamin.
Bon, autre sujet fort, on a appris ce week-end la candidature d'Arnaud Montebourg.
Oui, c'était le 4 septembre 2021 à 15h44, une date qui restera dans l'histoire politique, Alba. La candidature de Montebourg, c'est comme le 11 septembre. On se rappellera à vie de l'endroit où on était au moment de l'annonce. Alors, le slogan de Nono, c'est « Armantada de la France ». C'est pas top. Mais les autres slogans étaient pires. Je crois qu'il avait pensé à « Si le petit gros l'a fait, pourquoi pas moi ?» Je ne vois pas de quoi il parle. Ou « Plein le cul des abeilles ». C'était sincère, mais ça ne sonnait pas slogan de campagne. Alors, il faisait beau hier, Louis Baudin. Mais il y a des jours comme ça où les notifications téléphoniques peuvent venir vous gâcher une journée, même une journée ensoleillée. Alors, on a tous eu la journée de gâcher en apprenant le décès de Jean-Paul Belmondo. C'est fou, tout un pays qui regarde et qui fait « Oh non, merde !» en regardant son téléphone, pas lui. Sourire, talent, gentillesse, panache, la liberté, la générosité, le rire, les restos avec les copains, le limoncello, la fierté des origines italiennes, mais l'amour de la France. En fait, quand on fait la liste des qualités de Bebel, on se dit « Ça doit être un peu ça, être français, et c'est pas mal du tout. » Tentons de vous ressembler un peu, monsieur Belmondo.
Philippe Cavrivière non seulement nous fait rire, mais ce matin a réussi à nous émouvoir. Merci Philippe.
Et on est demain matin.
Ben voilà. Allez, un petit coup de météo avec vous, Louis Baudin.
Oui, la chaleur dont effectivement on parlait hier va persister encore aujourd'hui. Elle pourrait même se renforcer. Peut-être la journée la plus chaude de la période avec des valeurs de 28 à 33 degrés au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, à l'ouest par exemple. On battra peut-être des records encore comme hier avec 30 à 35 degrés attendus de le sud de la Bretagne jusqu'à l'Aquitaine, en région bordelaise, autour de la vallée de la Garonne. Tout ça avec du grand soleil. Un petit voile nuageux un peu plus épais quand même près de l'Atlantique, de la Bretagne aux Pyrénées. À surveiller, un petit risque d'averse quand même en montagne sur les Pyrénées, les Alpes et la Corse. Et puis quelques entrées maritimes, ces nuages côtiers sur le Languedoc-Roussillon avec un peu de vent d'automne.
Merci beaucoup, Louis Baudin. Merci à vous qui nous écoutez. Il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Et pour démarrer, cet hommage national qui sera bien rendu à Jean-Paul Belmondo.
Olivier Bost, vous nous le confirmez ce matin, une date et un lieu ont été trouvés.
Oui, ça sera après-demain, jeudi, aux Invalides, un hommage national pour Jean-Paul Belmondo. Un hommage très classique, très simple, c'est ce qu'a voulu la famille pour répondre à l'émotion. La cérémonie aux Invalides ressemblera sur la forme à celle qui s'était déroulée pour Charles Aznavour, autre grande figure populaire. Selon nos informations, tout cela a été préparé entre la famille et l'Élysée hier par l'intermédiaire de Brigitte Macron. Il se trouve que l'épouse du chef de l'État connaît bien la famille Belmondo. L'hommage aux Invalides sera populaire. Des registres pour un dernier mot et des espaces pour déposer des fleurs sont envisagés par l'Élysée.
Merci Olivier Bost. La vie, la carrière, l'hommage au magnifique disparu hier. Nous allons longuement y revenir dès le début de ce journal. Alors que s'ouvrira le procès des attentats de Paris demain, que faut-il attendre de Salah Abdeslam, seul survivant du commando meurtrier ? La brigade RTL pour répondre à toutes ces questions. À suivre également, reportage exceptionnel en Afghanistan. RTL a pu entrer dans ce pays fermé désormais aux mains des talibans. 1 million de tracts pour vanter le bilan d'Emmanuel Macron. 50 plus réclame déjà La République En Marche. C'est une info RTL. Et puis le foot, faux pas interdit pour les Bleus ce soir face à la Finlande après 2 matchs nuls et un moral en berne.
Notre rendez-vous avec Cyprien Signy.
Hommage à Belmondo, on ne naît pas magnifique, on le devient.
Dès la fin du journal.
RTL Matin.
Monsieur Hainaut, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille.
Un singe en hiver, film signé Henri Verneuil, dialogue de Michel Audiard et cette gouaille, cette manière unique de donner la réplique, celle de Belmondo. L'acteur nous a quittés hier à 88 ans et parmi les très nombreux hommages, je vous propose d'écouter celui qu'on a longtemps et sans doute à tort présenté comme un rival, alors qu'il était un ami, Alain Delon, anéanti par cette disparition.
60 ans qu'on se connaît. On a débuté ensemble. En 60 ans, on n'était personne. On n'était rien. C'était un ami d'enfance. Je partageais ma vie, la carrière avec lui. La France partageait notre carrière. Et ça fait 60 ans qu'on fait ça. Alors, imaginez-vous ce que ça fait de perdre quelqu'un après 60 ans. Quand c'est un ami, un autre proche de vous et tout, voilà. J'ai des souvenirs de ma carrière avec lui, Borsellino en particulier.
François, pourquoi tu t'en vas ?
Parce qu'on est deux.
Tu comprends pas ?
Facile à comprendre. Un jour ou l'autre, il en restera plus qu'un de nous deux. Vaut mieux que je m'en aille avant. On finira par se tirer dessus.
Maintenant, j'attends moi-même de mourir pour pas m'emmerder tout seul. Tout seul, quand vous êtes tout seul, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Non, et puis j'en ai eu beaucoup de compagnons bruts, mais lui, c'est pas pareil. C'était un compagnon de vie.
Borsalino et la musique de Claude Bolling, Alain Delon, qui exprimait donc son immense chagrin au micro de Vincent Perrault.
Une pluie d'hommages, on le disait, à la hauteur sans doute de l'immense popularité de Jean-Paul Belmondo.
Carrière exceptionnelle, 80 films, 130 millions de spectateurs. Il savait tout jouer, du voyou insolent pour Godard, à bout de souffle, qui lancera sa carrière jusqu'au rôle de Sam Lyon, que lui offre Lelouch 30 ans plus tard et qui lui vaudra un César. Ses rôles de flic, de cascadeur auront permis de forger le mythe. Rarement une personnalité aura autant fédéré. Tout le monde, toute la France aimait Bébel, comme l'illustre ce reportage de Vincent Serrano.
Assis sur la bordure d'un trottoir, Harry se tient la tête de la main droite dans la gauche, son téléphone portable qu'il fixe, l'air un peu perdu.
Vous m'interviewez au moment où je suis en train de lire un article sur son parcours qui est totalement atypique.
Sa mort m'attriste énormément. C'est une page qui se tourne.
Parce que c'est quelqu'un qui a incarné d'abord le bonheur. Il était le copain qu'on pouvait croiser dans la rue. Je l'ai moi-même croisé 2-3 fois rue des Saint-Pères. J'avais 20 ans. Je lui ai fait un petit signe, il m'a répondu.
Vous voyez, vous retrouvez le sourire?
Un peu. C'est pas une identification, c'est qu'on aurait voulu être sur le tournage et s'éclater comme lui. Éclaté.
Et derrière, sur la terrasse, Alain prend un verre avec sa fille et vous aussi, ça vous donne le sourire de penser à Belmondo.
Toc, toc, madame. C'est ma jeunesse, c'est mon héros quand j'étais jeune, j'ai été voir tous ses films. Il y avait d'autres acteurs que j'aimais aussi. Mais Bébel, c'est particulier, c'était un humour, la gouaille lui allait bien, voilà.
Alors je vais pas dire que vous êtes vieux, mais justement, il y a votre fille en face de vous. Il vous a transmis son amour de Belmondo.
Oui, alors du coup, ça devient une figure parce que j'ai pas vraiment vu ses films, mais à travers lui, je vois l'acteur qu'il était.
Film à cascade, il y avait des cascades de partout, il les faisait lui-même, c'était formidable.
Alain qui a chez lui un coffret DVD des films de Jean-Paul Belmondo et sa fille Lucie, c'est ça, vous êtes d'accord? Ce sera un film de Bébel tous les soirs jusqu'à la fin de la semaine.
Voilà une excellente résolution.
Et ça tombe très bien, sachez que Paris Première, chaîne du groupe M6, diffusera dès ce soir 2 films, Le Marginal et L'Héritier, suivi de 2 documentaires consacrés à Jean-Paul Belmondo.
Toc toc badaboum, plaisantait ce Parisien dans le reportage. Alors c'est drôle parce que c'est une réplique qui lui colle à la peau. Sachez qu'il ne l'a en réalité jamais prononcée. On la doit en fait à son personnage des Guignols.
Un whisky dans le gosier et... toc, toc, badaboum, je me jetais du haut de la tour Eiffel.
Voilà, ça c'est la marionnette de Belmondo, avec cette réplique donc, devenue culte.
On gardera de Belmondo l'image d'un sourire, d'un rire aussi, jusqu'au bout, et ce malgré les épreuves.
Ouais, la mort douloureuse de sa fille aînée en 1994, décédée dans l'incendie de son appartement, et puis cet AVC en 2001 qui l'empêchera de parler pendant 2 ans et qui signera quasiment la fin de sa carrière d'acteur. Juste avant cet accident, il évoquait précisément la mort de manière assez fataliste, écoutez-le.
Si on pouvait choisir, ça serait bien. Moi, je peux vous dire franchement, j'aimerais bien m'endormir le soir, comme c'est arrivé au roi du blues, là, qui tire les draps, puis sans doute se retrouve dans un autre monde, parce que moi, je pense qu'il y a autre chose, alors ça va.
Tirer le drap et partir, c'est donc ce qu'il a fait hier chez lui à Paris. Il avait 88 ans, et je vous rappelle cette information que nous vous donnions il y a quelques minutes, dès le début de ce journal, un hommage national sera rendu par le chef de l'État après-demain, jeudi donc, aux Invalides.
Et l'hommage d'RTL continue, puisque nous continuerons de parler de Claude Lelouch, avec Claude Lelouch, pardonnez-moi, Jean-Paul Belmondo, dans Laissez-vous tenter, à partir de 9h, et un dossier hommage complet est disponible dès maintenant sur rtl.fr. Ça, c'est la musique d'un Saint-Jean-Mille. Que devient Salah Abdeslam, l'unique survivant du commando meurtrier, sera dès demain au cœur du procès des attentats. Les réponses de la brigade RTL dans un tout petit instant.
RTL Matin.
RTL 8h09, la suite du journal de Dominique Tenza. Alors que s'ouvre demain le procès des attentats du 13 novembre, nous avons choisi ce matin de nous arrêter évidemment sur le cas Salah Abdeslam.
Demain, derrière la vitre du box des accusés, il sera sans doute l'objet de tous les regards. Il n'a rien dit, ou presque, depuis 6 ans. Que devient-il? C'est la question à laquelle va tenter de répondre ce matin la brigade RTL. Bonjour Cindy Hubert.
Bonjour.
Aujourd'hui encore, il est le détenu le plus surveillé de France.
Oui, les autorités ont une obsession, le garder en vie. Il est filmé 24 heures sur 24. 2 caméras fixes dans sa cellule de 9 mètres carrés. Des surveillants se relaient quasiment toutes les heures pour le regarder dans une pièce voisine. Sa surveillance a un coût, 1200 euros par jour. Le moindre de ses faits et gestes donne lieu à une synthèse quotidienne remontée au bureau central de l'administration pénitentiaire.
Salah Abdeslam est donc à l'isolement total. Cindy, à quoi ressemble son quotidien?
Eh bien, il regarde la télévision, il fait du sport, un rameur et un vélo ont été installés dans une des cellules, mais il passe surtout beaucoup de temps à prier. Et puis le détenu n'est pas non plus totalement coupé du monde. 13 personnes ont le droit de venir le voir au parloir, sa famille et quelques amis. Salah Abdeslam reçoit aussi beaucoup de courriers, notamment de jeunes femmes radicalisées.
La question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il a changé après toutes ces années de détention?
Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est assagi, en tout cas en apparence, puisqu'au tout début de sa détention, il a enchaîné les provocations, insultes, menaces. Salah Abdeslam est persuadé qu'on veut l'empoisonner. Il traite les surveillants de chiens, de singes, de mécréants. Mais depuis 2 ans, aucun incident. Le détenu est calme, mais il reste mutique.
Tout cela ne présage rien de très encourageant pour le procès?
Il ne faut rien attendre de Salah Abdeslam. C'est ce que se disent les parties civiles pour ne pas être déçus. Tout le monde a en tête son unique apparition publique. C'était à son procès à Bruxelles en 2018. Nous y étions pour RTL. Et même si au final on a entendu le son de sa voix, je peux vous dire qu'on en garde un souvenir glaçant. Salah Abdeslam a convoqué Allah. Je n'ai pas peur de vous, avant de se taire. Désormais, il a 9 mois pour parler.
La brigade RTL ce matin avec Cindy Hubert. Il est 8h11. Il est aujourd'hui devenu quasiment impossible d'entrer en Afghanistan. RTL vous propose ce matin un reportage exceptionnel.
Celui de l'un de nos correspondants sur place, Marc Léman. Il a fait la route depuis l'Ouzbékistan au nord et il a pu s'entretenir avec plusieurs Afghans qui, malgré le départ des troupes américaines, continuent de vouloir fuir le pays. C'est le cas de ce musicien traqué par les talibans. Je vous propose de découvrir ce reportage.
Depuis l'arrivée au pouvoir des talibans, c'est le nouveau rituel de Ahmad Fardin. S'enfoncer sous terre pour continuer à faire de la musique en toute discrétion. Ahmad Fardin reprend une chanson populaire pour clamer son amour de l'Afghanistan. Mais le retour des talibans lui donne des envies d'exil.
J'ai plus d'avenir en Afghanistan. Les talibans, ils ont détruit la plupart de mes instruments. Ils menacent les musiciens. Alors comment on peut faire pour jouer de la musique? J'ai consacré toute ma vie à la musique. Si je veux avoir l'opportunité de continuer, j'ai pas d'autre choix, il faut que je fuis mon pays.
Un de ses amis l'écoute en silence et finit par fondre en larmes. L'atmosphère est lourde, ils craignent que bientôt, en Afghanistan, seuls les oiseaux pourront chanter.
Reportage en Afghanistan de notre correspondant Marc Léman. Je vous le disais en titre, cette information RTL, à 7 mois de l'élection présidentielle, la majorité s'active. Emmanuel Macron n'est pas encore officiellement candidat, mais La République En Marche a d'ores et déjà vu les choses en grand. Dès ce week-end, plus d'un million de tracts vont être distribués. Vincent Derosier, cela ressemble furieusement à un début de campagne.
Ah oui, avec ce tract de 6 pages, la campagne d'Emmanuel Macron est bel et bien lancée. On y voit le président debout, très léger sourire aux lèvres sur fond rose, avec ce slogan « 5 ans de plus pour les Français ». Le message est donc sans aucune ambiguïté. Le reste du document est consacré à défendre le bilan, pouvoir d'achat, écologie, travail, sécurité, Europe, tout y passe. On n'arrive pas à valoriser le bilan, se désole un très proche du chef de l'État. Constat partagé à l'Élysée où l'on explique que l'enjeu des prochaines semaines et mois sera de montrer que le quinquennat n'a pas été immobile et que les avancées sont nombreuses sur les sujets régaliens, l'attractivité ou le pouvoir d'achat. Une campagne de tractage massif sera d'ailleurs organisée tout le week-end prochain dans toute la France. Enfin, la défense du bilan s'organise aussi sur Internet. Un site 5andeplus.fr va être lancé pour rappeler toutes les réformes engagées depuis 2017.
Info RTL signé Vincent Derosier.
8h14, c'est du foot ce soir. Hein. Dernier d'une série de 3 matchs pour les qualifications en vue du mondial l'an prochain, enfin si on se qualifie.
Vous rigolez beaucoup. France-Finlande, ce sera 20h45 à Lyon. Un rendez-vous effectivement à ne pas rater pour Didier Deschamps après les 2 matchs nuls, mercredi dernier face à la Bosnie et samedi en Ukraine, qui ont quelque peu atteint le moral des Bleus. Notre consultant Robert Pirès s'appelle à un sursaut.
Que les leaders et surtout Hugo Lloris, qui est notre capitaine, prennent un peu la parole, disent les choses fortes. Je pense que ça peut faire du bien à tout le monde, tout simplement parce que notre équipe, malheureusement, elle est, je trouve, en plein doute. Maintenant, c'est à eux de parler et je trouve que rien de mieux que la communication. Alors, Hugo est monté au créneau, Paul Pogba aussi, donc ce sont les leaders. Antoine Griezmann aussi, s'il a des choses à dire, il faut qu'il le dise au groupe, qu'il y ait une forme de réunion. Et surtout, il faut que les joueurs ils se rebellent. Le fait de jouer à domicile, en plus à Lyon, un stade avec une belle capacité, les gens vont être là, vont nous pousser, ils vont nous envoyer de l'énergie quand il y a des moments où ça ne va pas aller, parce que malheureusement c'est ce qui va se produire. Le retour de Karim Benzema sur ce 3e match, il sera d'attaque. Il faut pas oublier l'objectif, c'est quoi? C'est de finir premier, d'aller à la Coupe du Monde, et puis après on verra s'il y a des choses à retrouver ou à refaire, ou pourquoi pas qu'il y ait d'autres joueurs qui intègrent cette sélection. Donc le plus important, c'est de gagner et d'aller au Qatar.
Notre consultant Robert Pirès, RTL Foot à suivre ce soir sur RTL avec toute l'équipe du service des sports pour ce match en direct France-Finlande.
C'était le journal de Dominique Tenza, on vous retrouve à 9h.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure, dans un instant, on surfe avec vous, Cyprien Signy et Jean-Paul Belmondo, bien entendu.
Évidemment.
RTL.
patriote.
RTL Matin,
le surf de l'info.
Cyprien Sini.
8h17, on vous écoute, Cyprien.
Plus qu'un acteur, un monument national, un bout de France qui disparaît. La preuve, son décès annoncé dans tous les journaux télé étrangers hier soir en Italie.
Restera per sempre le magnifico, il magnifico.
Il magnifico, en Espagne.
En Francia, il mondo del cine analizza oggi la figura di Jean-Paul Belmondo.
En Allemagne.
Jean-Paul Belmondo will Profiboxer werden, hat aber in dieser.
Et même jusqu'au Brésil.
Morreone esta segunda-feira, o ator francês Jean-Paul Belmondo, aos 88
ans. Où l'homme de Rio a dû visiblement laisser quelques souvenirs. Bébel. Immense star, ça on vous le répète depuis hier, mais pour qui ? Trouver des rôles n'a pas toujours été facile finalement.
Quand j'étais jeune, j'ai eu ce problème, c'est-à-dire d'aller passer des auditions, ça m'a beaucoup emmerdé, parce que dans ma jeunesse, toutes les pièces où j'allais, il fallait que je lise le texte devant des types dans une salle qui en général ne me trouvait pas bien, c'est pas agréable.
Et oui, même Bébel a pris des râteaux, un retard à l'allumage, qui lui a sans doute donné cette vision ludique de son métier.
Je trouve que de faire le gugus, c'est déjà pas mal. Moi, je trouve que c'est une belle distraction et moi, j'aime beaucoup. Je m'amuse, c'est de jouer pour autre chose.
Jouer la vie comme un jeu, même dans un anglais parfois incertain.
Call me Washington, COFOOO, Argent, call me back,
Sphinx. Effectivement, jouer des rôles de tombeur, comme dans Le Magnifique.
Je vais courir avec toi sur cette plage, complètement nu, et lécher le sel de ta peau.
Oh, c'est beau. Lui qui, et ça, c'est son pote de toujours, Jean Rochefort, qui le raconte, n'a pas toujours été le grand séducteur que l'on pourrait croire.
Dans les couloirs du conservatoire, nous provoquions l'angoisse et la terreur des femmes. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que nos têtes ne correspondaient pas aux canons de l'époque. Et nous avons été extrêmement frustrés affectivement et sexuellement aussi, il faut bien le dire. Et heureusement, c'est un petit peu arrangé, surtout en ce qui concerne Belmondo d'ailleurs.
C'est le moins qu'on puisse dire. Icône du cinéma français qui a fait rêver plusieurs générations. Avec un goût certain pour la cascade.
Alors ça vous amuse de casser des décors ?
Ah oui, ça beaucoup. Quand on arrive, disons, à la partie action, là je regarde évidemment aussi pour voir ce qu'on peut casser le plus, parce que je crois que les gens aiment bien voir des choses qui se cassent, et moi j'aime bien les casser aussi, au cinéma.
Mais qui a pourtant démarré par une carrière, tout ce qu'il y a de plus classique finalement.
J'ai joué Les Fourberies de Scapin, j'ai joué aussi Précieuse Ridicule, où j'avais le rôle de Mascari, j'ai joué Georges Dandin, j'ai joué dans César de Bazan. J'avais un petit faible pour Scapin, ce que j'ai passé à mes concours de sortie.
Un scapin dont la malice devait certainement lui aller comme un gant. Et si Belmondo faisait du cinéma pour être vu ?
J'ai fait ce métier, c'est pour que beaucoup de gens me regardent jouer. Sinon, je me mets devant ma glace et puis je joue et puis je me trouve très bien.
Il n'a pourtant pas échappé à quelques bides. Oui, même lui. Alors, mais pas de quoi vraiment le perturber. Hein.
Si vous pouvez aller voir Hold Up, il est encore dans deux salles. Si vous y allez, il va en mettre quatre.
Alors oui, Bébel, finalement, c'était un peu notre copain à tous. Et on est nombreux ce matin à avoir envie de lui mettre une grande claque dans le dos en lui disant merci.
De faire le gugus, c'est déjà pas mal. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé que vous passiez cet extrait, c'est formidable. On vous retrouve dès 18h40 pour On défait le monde, autour de Julien Cellier, avec toute votre équipe.
Et on vous donnera des anecdotes sur Jean-Paul Belmondo.
Voilà, je vous le rappelle, un hommage national sera donc rendu jeudi aux Invalides. C'est l'information que nous vous donnions dès l'ouverture de notre journal de 8h. Maître Michel Godest était l'invité d'Alba Ventura il y a quelques minutes sur RTL. Il était l'avocat de Jean-Paul Belmondo. Et ensemble, ils avaient évoqué comment Jean-Paul Belmondo imaginait ses funérailles. Écoutez.
Et je trouve aussi que c'était juste après l'enterrement de Johnny. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que tu aimerais et tout. Il me dit, oh, je sais pas. Enfin, il disait des bêtises. Puis après, il me dit, si, j'ai pensé à quelque chose. Tu vois, j'aurais mon cercueil qui serait emporté par un hélicoptère. Et là, il y aurait un petit trou, je passerais ma main, puis je dirais au revoir.
Alors, a priori, ce sera plus sobre. L'hommage national à Jean-Paul Belmondo aura donc lieu le jeudi 9 septembre. Tout cela a été annoncé il y a quelques minutes par l'Élysée. Dans un instant, suite de notre matinale spéciale, nous serons avec Guillaume Évin, qui vient de terminer une biographie de Bébel. Enfin, c'est même plus vaste que ça. Hein. C'est toute son histoire au cinéma. Il sera avec nous dans un tout petit instant. A tout de suite.
RTL Matin. RTL Matin.
Il est 8h24, bonjour Guillaume Évin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous et de nous avoir rejoints dans cette matinale largement consacrée à Jean-Paul Belmondo. Vous êtes un spécialiste du cinéma et de ses stars, qu'elles soient françaises comme Brigitte Bardot ou Alain Delon, ou américaines comme Steve McQueen. Et j'annonce la parution de Belmondo, le livre Toc Toc Badaboum aux éditions Hugo Images. Très prochainement, ce sera très exactement le 7 octobre. En 2001, sur RTL, Jean-Paul Belmondo évoquait sa disparition avec sérénité, je le cite. Ça veut dire qu'il croyait à un devenir après la mort. Moi, j'ai découvert ça ce matin, il y a une une dimension spirituelle chez cet homme dont on n'a jamais entendu parler. Vous non plus.
Moi non plus. Voilà. Mais tout homme a ses secrets.
C'est assez étonnant, non ? Il faut attendre voilà, une épreuve comme celle-là pour découvrir qu'il y a un jardin qu'on n'avait pas encore visité.
Exactement, mais avec Mitterrand, c'était pareil, rappelez-vous.
Vous avez raison. Alors évidemment, on est loin de Toc Toc Badaboum. Ça sort d'où ce Toc Toc Badaboum à propos ?
Pour être tout à fait exact, il faut rendre à Michel Leeb la paternité de cette expression.
Initialement ?
Exactement. Et puis après, bien sûr, les guignols l'ont popularisé et avec le succès que l'on sait, c'est resté.
Alors ce qui est incroyable chez ce comédien, c'est l'incroyable décontraction. D'après vous, d'où vient-elle ?
Je pense qu'en fait, il aimait jouer, sincèrement. C'était son carburant, son moteur. Et donc, il se lâchait totalement devant la caméra ou sur les planches.
Son éducation a joué un rôle dans tout ça ?
Oui, parce qu'il vient d'un milieu finalement assez aisé, sans être non plus grand bourgeois. Son père était sculpteur, sa mère artiste peintre. Il n'a pas eu à se battre pour advenir. Mais le talent, la décontraction naturelle, sa bande de copains a fait qu'il s'est épanoui dans un environnement porteur et puis après le cinéma l'a happé.
Et il a été aimé et soutenu par sa famille, ça vous libère une bonne nature dont je rappelle les prénoms de ses parents Paul et Sarah. Pourquoi on ne parle jamais d'ailleurs de Madame Belmondo et toujours de son père ? C'est étrange, non ?
Oui, c'est vrai que la pauvre a un peu vécu à l'ombre de son mari. Paul Belmondo était un immense sculpteur. Oui. Et d'ailleurs, il a un musée à son honneur.
On a passé ce matin un extrait assez étonnant de sa remise de César d'honneur. Il n'a cité que sa mère qui lui disait tout le temps « Sois courageux ». Et il ajoutait « C'est grâce à ce courage que je suis ici ». Ça en dit long sur son rapport au cinéma, non ?
Oui, bon, et aussi, c'est vrai, il a toujours été boxeur dans l'âme aussi, parce qu'il avait compris que la boxe, on endurait beaucoup, on était capable de donner des coups, donc ça permettait de rebondir dans les moments difficiles. C'était sa nature de toute façon. En fait, je vais vous dire, Belmondo, il avait l'énergie et le style. Mmh. Et c'est ça qui a plu aux Français dans les années 60, lorsqu'il éclate avec Godard dans Un bout de souffle. En fait, il correspond complètement à son époque. Mmh. Il est dans le ton, il est même en avance. En fait, il avait un côté presque 68-art avant l'heure, parce qu'il a surpris. Et puis donc Godard l'a emmené, ils ont fait Pierrot le Fou, il a tourné avec tous les grands noms de la Nouvelle Vague. Claude Sautet, Truffaut bien sûr, Louis Malle, Chabrol.
Alors ce qui est étonnant chez cet homme, c'est une apparente légèreté permanente et en même temps on se rend compte qu'il y a une profondeur qu'on n'avait pas tout de suite identifiée. Vous qui travaillez de longue date sur cet homme, qu'est-ce qu'on ne sait pas de lui ?
Je pense que le grand public ignore qu'il a peut-être été blessé cinématographiquement parlant. Je pense qu'il a vécu ça comme une injustice profonde avec le film Stavisky d'Alain René en 74.
Oui.
Parce que jusqu'à présent, Jean-Paul Belmondo avait toujours su, en fait, on va dire manier les deux côtés du cinéma. C'est-à-dire qu'à la fois un rêve de cinéphile avec les films de la Nouvelle Vague, et puis en même temps ce cinéma très populaire, aussi popularisé par Philippe de Broca, avec Cartouche, avec L'Homme de Rio, Le Magnifique. Et donc il arrivait à marier ces deux facettes. Et puis en 1974, c'est la rupture, parce que Stavisky, qui l'a produit d'ailleurs, sans le dire à Alain René, avec beaucoup d'élégance, pour ne pas lui mettre une pression inutile, eh bien ce film en fait est éreinté à Cannes, il est sifflé, conspué. Et ça, Jean-Paul ne l'a jamais supporté, il n'a pas compris. Et c'est un peu pareil avec Delon et Monsieur Klein. Et à partir de là, il va se dire, ok, en fait, je suis enfermé dans une case et les gens s'attendent à me voir dans un type de cinéma. Alors, et il va basculer dans un cinéma commercial un peu plus accessible, un peu moins rigoureux. Mais voilà, ça a marqué une césure.
C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on se rend compte que sa blessure est une blessure de cinéma.
Oui, alors bien sûr, je ne vais pas parler de ces drames privés, mais bien sûr, oui, c'est ça. Et de toute façon, c'était le comédien le plus doué de sa génération, peut-être de plusieurs générations. Il avait tout pour lui, et en fait, je pense qu'au départ, il espérait percer sur les planches. Et d'ailleurs, son père souhaitait qu'il devienne un immense comédien. Et puis, le cinéma le rattrape avec Godard. Hop, il est aspiré. Il y a une mécanique qui s'enclenche. Le star system, le succès, l'argent. Et voilà, il prend plaisir. Il est une vedette. Il comprend, en fait, au milieu des années 60, notamment avec L'Homme de Rio, justement, il comprend qu'en fait, le succès est durable. Oui. Qu'il ne va plus jamais retomber. Et en fait, ça va l'apaiser. Parce que finalement, c'était aussi un anxieux. Contrairement à ce qu'on croit, c'est qu'il a pensé au départ que
il n'allait pas usurper cette notoriété, mais ça lui était tombé dessus comme ça, il ne comprenait pas bien pourquoi il plaisait, pourquoi lui.
Il a trouvé sa place dans le cinéma français.
Et voilà, il a trouvé la place dans un cinéma français à une époque, donc les Trente Glorieuses, une époque où la France allait mieux, on n'était pas sous tension comme on l'est maintenant. Et Belmondo a incarné cette France épanouie qui avait malgré tout ses difficultés.
Une France heureuse.
Mais voilà, une France heureuse.
Quel est votre film préféré?
Ah, difficile.
Bah, faut choisir.
Ah oui, j'ai envie de dire Pierrot le Fou. J'adore. C'est génial. C'est Godard, c'est Belmondo, c'est la mer, le rouge avec Anna Karina. Il est absurde, provocateur, anarchiste. C'est fantastique.
Et est-ce qu'on sait ce qui était son film préféré?
Eh bien, c'était justement Pierrot le Fou.
Il le disait?
Oui, il l'a dit.
Parce qu'on avait l'impression qu'il prenait quand même, je dirais, si ce n'est ses distances, qu'il était à la fois fier d'avoir fait ses films, mais qu'il voulait continuer à mettre en avant une forme de légèreté et assumer tout le cinéma populaire qui fait qu'il est rentré d'ailleurs dans le cœur des Français et pas uniquement des cinéphiles. Vous comprenez ma question?
Tout à fait, il l'assumait complètement, ce cinéma populaire, même s'il n'était pas dupe non plus. Il savait bien que certains de ses films, je pense au Morfalou, Joyeuse Pâques, ne sont pas du niveau de Léon Morin Prêtre ou Pierrot le Fou ou À bout de souffle, ou même Le Voleur de Louis Malle.
Moi, j'aime bien Joyeuse Pâques.
Mais ça, il le savait, parce que c'était un très, très grand comédien.
La trace qu'il va laisser, c'est assez étrange, parce que depuis hier, on évoque la disparition de quelqu'un, et en fait, tout le monde a le sourire. Qu'est-ce que ça nous dit du rapport que nous avons entretenu avec cet homme? Et j'ai la chance, nous avons la chance, vous et moi, ce matin, d'être entourés d'une photo absolument exceptionnelle de Jean-Paul Belmondo dans ce studio d'RTL, où il est avec sa casquette, son sourire, ses rides, ses bagues. Voilà, ce rapport entretenu avec cet homme depuis 40-50 ans, qu'est-ce qu'il nous dit de nous et qu'est-ce qu'il dit de Jean-Paul Belmondo et des Français?
Il aimait la vie, il croquait goulûment dedans, donc finalement, en fait c'est un homme, vous savez, dans l'art de l'illusion qu'est le cinéma, lui n'a jamais triché, il donnait tout. Et ça, le public le savait, ne serait-ce que ses cascades. Tout le monde savait pertinemment que c'était vraiment Bébel qui s'agitait. Lorsqu'on le voit suspendu un filin au-dessus du Grand Canal de Venise dans le Guignolo en caleçon à pois, tout le monde sait que c'est Bébel. C'est lui, il n'est pas doublé. Et ça, en fait, cette générosité, voilà, il avait cette générosité qu'il donnait à tout moment, sur les planches, devant une caméra. Et ça, le public le sent.
Film culte, Cascade de la mort, Secret de tournage, votre livre, Belmondo. Le livre Toc Toc Badaboum paraît chez Hugo Images le 7 octobre, très exactement. Merci d'être venu nous rejoindre dans cette matinale. Ce soir, sur Paris Première, je le rappelle, une soirée spéciale Belmondo, 20h55 Le Marginal, 22h45 L'Héritier, signé Philippe Labro, suivi de deux documentaires, Belmondo l'influenceur et Belmondo le goût du risque. Merci beaucoup Guillaume Évin. Belmondo, le livre Toc Toc Badaboum, apparaître tout prochainement chez Hugo Images le 7 octobre. Louis Baudin, on se retrouve dans un instant pour votre météo à 7 jours. Merci beaucoup. Ça, c'est la musique du Marginal. Hein. Il m'inquiète, Louis, il me regarde bizarrement sur son
musique. Ah bon. Non, parce que moi aussi, je pense à plein d'images. À Belmondo.
Alors, il faut rester avec nous, hein, parce que hommage très important en compagnie de Claude Lelouch à partir de 9h dans Laissez-vous tenter. Voilà, tricotez-nous cette journée.
Très chaude.
De beau temps, c'est bien ça.
Beau temps, très chaud même, avec parfois un petit voile nuageux dans l'ouest. Là, je vois ces petits nuages très élevés qui vont circuler entre la Bretagne et les Pyrénées, mais sans aucune conséquence. Une belle luminosité, grand soleil ailleurs. À surveiller un petit risque d'orage comme hier sur les Pyrénées, les Alpes, ou encore du côté du Massif central, ou même sur la Corse. Au Massif central, ça restera très limité. Et puis, à signaler quelques entrées maritimes. Ces nuages qui viennent de la mer sur le Languedoc-Roussillon, un peu de vent d'autan sur la région toulousaine. Cette chaleur avec des températures dépassant les 30 degrés, frôlant par endroits les 35 degrés, notamment dans l'ouest. Alors demain, une telle chaleur, ça va tourner à l'orage dans la moitié ouest. Ça sera encore très chaud et très ensoleillé dans le nord-est. Et puis entre jeudi et vendredi, l'activité orageuse va circuler sur quasiment toutes les régions. Un peu moins fréquente le matin, un petit peu plus l'après-midi. Les températures baisseront un peu, autour de 25 degrés dans la moitié nord. Ça reste de saison, 30 degrés dans le sud. Et puis de nouveau, entre samedi et dimanche, mais une relative amélioration avec le retour d'un temps plus sec, plus ensoleillé, plus doux, plus calme également. Beaucoup moins d'orages avant de nouveau. Là, pour le coup, ça n'a pas l'air de durer. Une nouvelle dégradation qui pourrait arriver en début de semaine prochaine.
Merci beaucoup Louis Baudin. Il est 8h35. Dans un instant, la face cachée de la Une avec Isabelle Choquet. Que dis-je? La face cachée de Bébel.
RTL Matin, la face cachée de la Une.
Il est 8h37, on poursuit notre hommage à Jean-Paul Belmondo avec vous Isabelle Choquet. La face cachée de Bébel, ce sont quelques coups de sang.
Hein. Oui, la plupart du temps, il était tel qu'en lui-même, tel qu'on le connaît, jovial, charmeur, potache, un hymne à la joie de vivre, sourire irrésistible. Mais quand même, fallait pas trop le chercher, on n'est pas boxeur pour rien. Et puis, surtout, Jean-Paul Belmondo ne supportait pas les injustices, il n'hésitait pas à monter au front pour les réparer. Le Figaro revient sur les coups de gueule de l'As des As. Ça commençait par ce bras d'honneur au tout début de sa carrière, bras d'honneur au jury du conservatoire qui venait de le recaler malgré l'ovation du public. C'était en 1956. Belmondo en avait gardé une aversion pour toutes les récompenses. En 1989, il a ainsi refusé sa nomination comme meilleur acteur pour Itinéraire d'un enfant gâté au César. Le public est le seul jury qui puisse accorder des distinctions. Voilà ce qu'il disait. En 97, il avait aussi boudé Cannes. En plus, Cannes, c'était plein d'Américains. Ça, c'était l'un de ses combats les plus vifs, la colonisation des écrans français par le cinéma yankee. Je ne suis même pas sûre que le Godard de demain puisse sortir un nouvel à bout de souffle, disait-il. Autre combat plus intime, son père. En 96, Belmondo s'insurge contre l'absence d'œuvres de Paul Belmondo sur les Champs-Élysées dans une exposition qui retrace un siècle de sculpture. Pas parce que c'est mon père, dit-il, mais parce que c'est un grand artiste. Et puis pour le coup de poing, voyez le tournage de L'aîné des fers chauds en 63. Melville, le réalisateur, malmenait un peu Charles Vanel. Un jour, Belmondo n'a plus supporté. Il est parti, mais avant, il a réglé ses comptes. Il s'approche de Melville, il lui arrache son Stetson, il lui arrache aussi ses Ray-Ban et il le pousse à terre. Et puis il l'achève d'une phrase. Sans tes lunettes et ton sombrero, t'as l'air de quoi maintenant ? D'un gros crapaud.
Mais c'est,
ça
pas
va... c'est pas faux, mais sa bataille la plus célèbre, il l'a menée contre Alain Delon, bien sûr, à cause de l'affiche de Borsalino. Le contrat prévoyait un strict équilibre entre les noms des deux acteurs. De ce point de vue, pas de souci, mais Alain Delon était aussi producteur. Il a fait rajouter Alain Delon présente sur l'affiche. Deux fois le nom de Delon, c'est une fois de trop pour Belmondo. Pour lui, c'était un affront. Il a boycotté la première du film. Il a gagné en justice. Les deux stars ont réglé leur compte dans la presse. Ça a duré quelques années. Puis bon, après, on n'en parle plus. Hein. Les grands fauves ne se mangent pas entre eux. Car ces deux-là étaient finalement les deux faces d'une même France. Toute leur vie, ils auront cheminé ensemble. Belmondo, né en 33 à Neuilly, dans une famille bourgeoise, artiste et aimante, élève dissipé mais doué au conservatoire, réformé de l'armée. Delon, né à Sceaux en 35, gamin mal aimé, mis en pension, enrôlé dans l'armée pour fuir et s'émanciper, et devenu acteur presque par hasard à son retour d'Indochine. Une gueule de boxeur au charme irrésistible d'un côté, de l'autre un visage d'ange à la beauté du diable. Delon crève l'écran dans Plein soleil de René Clément en 60. La même année, Belmondo meurt sous les balles dans À bout de souffle de Godard. Tous deux donneront la réplique au patron Jean Gabin, mélodie en sous-sol pour Delon, un singe en hiver pour Belmondo. Ils seront réunis, on en parlait, dans Borsalino, puis dans Une chance sur deux de Lecomte. Et les voilà séparés. Le Figaro publie une très belle photo issue de la collection personnelle de Delon. Sortie de loge, Bébel en peignoir, Delon le serre dans ses bras, c'est en noir et blanc. À la main, une dédicace. Tout est dit sur cette photo, mon cher Alain, ton ami Jean-Paul.
Merci beaucoup Isabelle Choquet. Rendez-vous demain matin sur RTL.
À demain.
RTL, vous êtes comme ça.
Vous êtes comme ça avec ce matin un cordonnier nordiste, mais oui, fort talentueux. Et il vient d'ailleurs d'être récompensé comme artisan d'exception. C'est un vrai passionné de son métier. Franck Hanson, bonjour.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant d'RTL dans le Nord et vous êtes allé dans l'atelier de cet artisan multiservice tout près de Lille.
Oui, Olivier Mesdag, bon pied, bon oeil, a installé sa boutique chez lui dans une ancienne boucherie. À 55 ans, cet artisan a appris sur le tas et commence à avoir une solide réputation dans le coin.
Normalement, les chaussures doivent ressortir plus belles que quand elles sont rentrées. Autrement, ça ne sert à rien de les réparer. Donc moi, je fais de la chaussure, je fais de la maroquinerie, je peux aussi réparer des selles de moto, je peux aussi faire de l'aiguisage, des clés de toute gamme. Des anciennes clés spéciales, les clés Bricard, vous avez les anciennes clés de moto.
Cordonnier depuis 1987 et depuis 13 ans à son compte, Olivier, qui avait participé au chantier du métro de Lille, aurait dû travailler pour le tunnel sous la Manche, mais c'est un pied dans le plâtre qui a fait changer ses plans.
Voilà, je voulais partir au tunnel sous la Manche, mais j'avais un pied dans le plâtre. Et comme j'ai pas été pris, que j'avais deux frères cordonniers dans une galerie marchande, on a demandé au directeur de faire les essais. Puis je lui ai montré, je savais planter des clous. Puis au bout de deux mois, je suis parti à faire des remplacements dans tout le Pas-de-Calais. Là, je fais un bon bout, une talonnette. Tout est réparation de paire de chaussures. On a des produits, des teintures pour le cuir, on a des teintures pour le synthétique, pour la toile qu'on n'avait pas avant. Quand on est bien dans ses pompes, c'est ce qu'on dit toujours, et bien, c'est le principal. C'est un plaisir de le faire.
Ce commerçant est aussi un sacré bricoleur qui ne répare pas que les chaussures et qui sait s'adapter.
Un exemple, un talon ici, vous avez un talon femme qui est creux. Qu'est-ce qu'on fait? On bouche le talon avec du liège. On récupère les bouchons, on fait le plein avec les talons.
Oui, plus confortable. Il y a parfois des petites bidouilles en fait.
Ah bah c'est beaucoup. Il faut savoir servir de ses mains, mais savoir servir de sa tête. La chaussure, c'est un produit qu'on ne peut pas recycler. Quand vous faites réparer vos chaussures, vous faites un geste pour l'écologie.
Parmi ses clients, des jeunes qui viennent pour leur vieille voiture.
Voilà ici une clé de MX-5 Mazda.
Vous avez de la chance. Il m'en reste. Quelle année la voiture?
C'est une 91. Il n'y a que monsieur qui sait me trouver cette clé-là, donc je préfère venir ici, au moins c'est du sûr.
Le cordonnier vit bien de son métier, voilà. Mais il ne compte pas ses heures.
Alors précisons que cet artisan polyvalent vient d'ailleurs d'être récompensé par ses pairs.
Il n'en est pas peu fier d'ailleurs, Olivier Mesdag a reçu le prix Star et Métier de la Chambre des Métiers des Hauts-de-France pour une histoire de jeux vidéo.
Cette société start-up de Roubaix m'a appelé pour transformer des chaussures pour un jeu vidéo qui serait après virtuellement connecté. J'ai fait une 2x12 ou 10 paires pour que ça passe ça partait à Dubaï pour un salon de jeux vidéo. Et après, j'ai fabriqué un prototype. Donc là, c'était une chaussure avec une roulette. Hein, vous avez des appareils sur les chevilles et vous jouez dans le jeu virtuellement. J'ai été un vainqueur. Voilà, c'est toujours une fierté.
On arrive toujours à se renouveler.
Il faut. Quand un client nous demande quelque chose, on ne va pas dire non, ce n'est pas possible.
Ce prix récompense aussi tout un parcours. Oui. Ce père de famille dont le fils a préféré la cuisine aux chaussures forme aussi désormais de futurs cordonniers.
Bah moi, c'est important d'être formé parce que je veux transmettre mon savoir. Je forme des jeunes stagiaires, c'est-à-dire que ça peut être un CAP 1 an ou CAP 2 ans, mais aussi, on va dire depuis 2015, des adultes en reconversion. On cherche beaucoup de cordonniers, puisque en France, il va y avoir beaucoup de cordonniers qui vont partir à la retraite. Les mairies nous appellent pour s'installer en centre-ville. Bah, moi, je suis fier d'être artisan.
Bonjour Olivier.
Salut Laure.
Olivier garde toujours le sourire avec ses clientes fidèles, comme Laure Bazan, sa voisine coiffeuse.
Tu as récupéré tes chaussures?
C'est ça.
Bah, voilà, elles étaient grises, mais non, j'ai choisi de les remettre noires parce que ça convenait. J'ai démonté la chaussure complètement, c'est reteinté, c'est refixé comme il faut.
C'est magnifique. J'y tenais parce que je me sens très très bien dedans, il faut être bien dans ses pompes, hein, comme on dit. Moi, je suis coiffeuse juste à côté, ouais, c'est mon collègue artisan. Il est très réputé, c'est un personnage, c'est un artiste, en plus d'être un artisan, pour moi, hein, voilà. Là, je dois te ramener un sac à main.
Ce cordonnier aux mains expertes entend défendre encore longtemps son savoir-faire. Et ses apprentis trouvent d'ailleurs tous du travail.
Merci beaucoup Franck Hanson pour cette rencontre dans la région lilloise. Votre portrait est à retrouver sur rtl.fr. Dans un instant, c'est Laurent Gérard et toute son équipe qui sont avec nous.
RTL Matin,
Yves Calvi. Bonjour Laurent Gérard.
Bonjour Yves.
Bonjour Mademoiselle Jade.
Oui, si tu dis bien bonjour, t'as déjà fait la moitié du chemin.
Eh ben voilà.
Ça, il ne faut pas l'oublier. Jean-Paul Belmondo nous a quittés. La France est en deuil, vous le savez, particulièrement le monde du théâtre et du cinéma. Bonjour Fabrice Lucchini.
Bonjour Belmondo, énorme. C'est énorme. Déjà sur l'affiche, c'était énorme. Tu te souviens la Jade?
Oui.
Son nom était écrit en plus gros que le titre du film. On n'allait pas voir un film, on allait voir un Belmondo. Aujourd'hui, on va pas voir un Ninet quand même.
Dis donc.
Giono a dit « La mort attrape d'abord ceux qui courent ». Bah tu vois, tout grand écrivain qu'il est tel, Giono, il s'est planté. Belmondo, celui qui ne tenait jamais en place, il l'a semé, la mort. Il l'a trompé, suspendu un hélicoptère au-dessus de Venise dans le Guignolo. Ou en équilibre sur une poutrelle dans l'Homme de Rio. Elle a jamais réussi à le prendre, la mort. Non, elle a attendu, comme la garce qu'elle est, qui s'arrête. Alors tu vois, ce matin, comme dans la scène finale de À bout de souffle, quand Belmondo touché dans le dos, s'effondre rue, campagne première, j'ai envie de te dire comme lui, la mort, c'est vraiment dégueulasse.
Alain Delon a tourné 8 films avec Jean-Paul Belmondo. Bonjour Monsieur Delon.
Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Madame.
Oui, bonjour Madame.
C'est vrai que Jean-Paul Belmondo a eu 8 fois le privilège de tourner avec Alain Delon. Mais je dois dire que c'est un privilège partagé.
Bon, la première fois, c'était en 58 dans « Sois belle et tais-toi ».
En effet, une époque où on pouvait tourner des films qui s'appelaient « Sois belle et tais-toi ». Aujourd'hui, il faudra l'appeler « Ne cède pas aux injonctions esthétiques du patriarcat et ouvre ta gueule ». Je comprends que Jean-Paul soit parti.
Il y a eu aussi « Paris brûle-t-il » en 66.
Aujourd'hui, le film s'appellerait « Paris roule-t-il ». Et Borsalino s'appellerait Casquette à l'envers.
Bon, si je résume, vous n'aimez pas trop votre époque.
En effet, Alain Delon n'aimait déjà pas beaucoup 2021, mais 2021 sans Jean-Paul Belmondo, il trouve ça irrespirable.
Bonjour.
Ah, bonjour François Hollande. Oui. Vous voulez réagir à la mort de Jean-Paul Belmondo?
Oui, car on m'a souvent comparé à Jean-Paul Belmondo.
Ah bon?
Ah.
C'est nouveau ça.
Et pas que pour le physique. aussi pour ses rôles et ses films.
Ah bon, mais attendez, je comprends pas. Le magnifique, le professionnel, l'as des as.
Non.
Non.
Guignolo.
Il y a quelques mois, nous nous étions amusés à projeter notre Premier ministre Jean Castex dans la filmographie de Jean-Paul Belmondo, et ça donnait ça. Dans Itinéraire d'un enfant gâté de Claude Lelouch, Jean-Paul Belmondo donne un conseil à Richard Anconina, un conseil qui s'applique aussi parfaitement au Premier ministre Jean Castex.
Dans 6 mois, tu vas devenir Premier ministre. Alors déjà, tu vas changer de costard, parce que les rayures avec les rayures, ça va pas du tout. Ah ça, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. La première chose, c'est que tu vas apprendre à ne pas tout répéter 2 fois. Promis. Promis. Puis tu vas apprendre à dire bonjour. C'est la chose la plus importante dans la vie. Si tu dis bien bonjour, t'as fait la moitié du chemin. Dis-moi bonjour. Bonjour. Non. T'as l'air de me dire au revoir. Dis-moi bonjour comme si j'étais un malade du Covid.
Bonjour.
Ah ben là, je sens que t'es prêt à faire des choses pour moi. Étant donné que tu vas être confronté à pas mal de choses que tu connais pas, tu vas faire semblant de les connaître. Le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout, c'est de jamais avoir l'air étonné. Toi, t'as souvent l'air étonné. À faire un test. Je vais te dire 2 ou 3 choses étonnantes, mais qui ne devront pas t'étonner. T'es prêt? En responsabilité, je suis prêt. Je suis prêt. Tu sais qu'avant, Mélenchon était avec le petit Jospin? Ah ben voilà. Voilà, oui. T'as l'air étonné. Ah oui, mais c'est étonnant. C'est étonnant, mais ça ne doit pas t'étonner.
Non.
Tu sais qu'avec le Covid, on pourra acheter des clopes, mais on ne pourra pas acheter des livres? Et ben voilà. Tu recommences à avoir l'air étonné.
Il faut que je ne fasse rien.
Rien. Presque l'œil lointain.
Un peu endormi.
Pas trop. Parce que t'as déjà tendance à pas mal endormir les gens.
Bonjour Patrick Bruel, c'est un cri de quoi là cette fois?
Un cri de douleur. Ah. Un cri de douleur, bébé est parti, je suis effondré, du coup je vais me jeter à corps perdu dans le travail. Il y a sûrement un biopic sur Jean-Paul qui est déjà en préparation. J'imagine que tu vois qui est le seul acteur qui peut jouer son rôle à Bebel.
Eh ben non, justement, je vois pas. Qui peut être à la hauteur de Jean-Paul Belmondo?
Enfin, quoi? Tu rajoutes de la souffrance à la douleur? C'est évident, c'est moi qui peux le faire, Bebel. De toute façon, je peux tout faire.
Vous êtes sûr?
Oui, mais oui, tu me colles un caleçon à poids, tu m'attaches à un hélico, je suis le guignolo, tu me fous un mocassin sur le toit des galeries Lafayette, je te fais peur sur la ville, tu me crèves un œil, je peux même faire Minos dans peur sur la ville, ça fera des économies, je peux tout faire, tu me peins la tronche en bleu et je suis Pierrot le fou.
Fou peut-être, mais Pierrot, c'est moins sûr. Allez, au revoir Patrick.
Oui, vous préférez écouter le vrai, c'est ça? Oui. Allez, j'avais moi-même de ces frayeurs étant enfant, et dans notre vaste demeure près de la forêt de Bondy, je sautais de guérets en guérets tout en sifflotant des comptines.
Jean-Paul Belmondo était le chef de file de ce qu'on a appelé la bande du conservatoire, une bande de copains qui ont appris leur métier ensemble, une génération dorée d'acteurs qui sont restés très amis tout au long de leur vie. Parmi eux, le regretté Jean-Pierre Marielle. Imaginons la réaction de ce dernier à l'annonce de la mort de Belmondo.
Oh nom de Dieu de bordel de merde! Ça y est, il a passé l'arme à gauche. Ah, il a rendu son dossard, le dernier de la classe qui était en fait le premier. Ah, c'est pas trop tôt, je commençais à m'emmerder sévère ici. On va pouvoir enfin se marrer, on va faire les cons comme au bon vieux temps. Oh, il est magnifique, le magnifique. Tiens, quand il va arriver, je vais le peindre en bleu, en jaune, en vert. J'y passerai des jours, des mois, des années, s'il le faut. Ici, j'ai tout mon temps pour ça, je renais. Tiens, c'est bien simple. S'il me demandait de bouffer le compteur à gage, je le ferais. Jean-Paul, on peut pas lui résister. Guignolo, le marginal, l'incorrigible, tu parles. C'est l'irrésistible, ouais. Il a joué toute sa vie, et puis... Non, il l'a pas joué. Il l'était, point, et on va pas à la ligne. Oh nom de Dieu, de bordel de merde. Ah, on va pas l'accueillir le verre vide, non? Du pinard, Saint-Pierre, du pinard!
C'est avec Jean-Luc Godard que la carrière de Jean-Paul Belmondo a explosé. À bout de souffle, a non seulement été un grand succès, mais a révolutionné la façon de faire du cinéma grâce à Jean-Paul et son réalisateur, Jean-Luc Godard.
Nom Belmondo, prénom Jean-Paul, Bébel pour les intimes. 70 millions d'intimes, 70 millions de Français. Belmondo séduisait les femmes, plaisait à leurs maris, enchantait les enfants. Belmondo était un enfant en puissance. Quand on dit à ces derniers qu'il faut faire attention avant de traverser la rue, lui, il joue les toreros avec les voitures dans Un singe en hiver. Quand les gosses se font engueuler lorsqu'ils grimpent dans les arbres, lui, il applaudit quand il court sur le toit du métro dans Peur sur la ville. Comme eux, Belmondo joue. Belmondo, c'est le jeu partout, le jeu tout le temps. Dans le cinéma d'auteur et dans le cinéma populaire, dans Léon Morin prêtre et dans L'âge des as, il n'y a que deux genres de cinéma, le bon et le mauvais. Avec Belmondo, c'était toujours le bon. Si vous n'aimez pas Belmondo dans Un bout de souffle, si vous n'aimez pas Belmondo dans Le Magnifique, si vous n'aimez pas Belmondo dans Le Professionnel, allez vous faire foutre. Et pour une fois, c'est moi qui vais laisser le dernier mot à Jean-Paul et lui laisser le soin de dire « Coupé ».
Après cette émotion qui est la nôtre, parce que vous les faites tous revivre, hein, c'est ce qui est toujours très perturbant et très émouvant, il faut que vous nous racontiez en quelques mots, s'il vous plaît, cette fin de dîner. Ça se passe à Lyon, si je ne m'abuse.
Ça se passe à Lyon pendant le Festival Lumière.
Voilà, vous avez forcé un tout petit peu sur le vin rouge avec vos camarades.
On a forcé un petit peu, et même sur le Dijon, et on est à la table avec Jean-Paul, avec Jean-Pierre Marielle, avec Claude Brasseur, et avec Jean-François Stévenin.
Voilà. Il est tard déjà. Voilà.
Il est tard dans l'après-midi.
Ah, et je vois.
Oui.
C'était un déjeuner.
Ah oui.
Et là, je suis comme un gosse. Parce que
oui.
Et là, Jean-Pierre Marielle dit, au bout d'un moment, oh, je vais montrer mon cul. Et Jean-Paul rajoute, moi aussi.
Ben voilà.
Mais ils l'ont pas fait.
Ils l'ont pas fait. Bon, évidemment, on retrouve toutes. Ces émotions que nous avons partagées avec vous sur le site RTL.fr. Ouais,
on pense fort à Jean-Paul.
Bien entendu.
À demain.
C'est la musique du Guignolo, et dans quelques instants, on n'y voyait absolument aucune allusion. Non, parce que je me rends le 10 ans, je me rends compte. Cher Cyril, vous allez nous donner une recette un peu particulière.
Ouais, c'est
il y a des cubes de riz croustillants, vous savez, c'est le genre de choses que je ne comprends pas, moi, mais il va très bien nous expliquer tout ça.
Oui, voilà, bon vivant.
C'est juste.
RTL Matin. Yves Calvi.
Cher Cyril, Nébil vit à Luxembourg. Il nous écrit « J'ai goûté dans un restaurant japonais des cubes de riz croustillant, à baigner dans de la sauce soja et à manger avec un tartare de poisson. Comment puis-je essayer de reproduire ces cubes chez moi ?»
Alors, il faut déjà acheter du riz à sushi.
Oui.
Il faut le cuire. Donc, on prend une machine à riz, une cuiseur à riz. On met 3 tasses de riz, 3 tasses d'eau et on laisse cuire. Une fois que le riz est cuit, on prépare un bouillon à côté avec 35 grammes de sucre, 10 grammes de sel fin. On met du vinaigre de riz, du saké et on mélange le riz. Ensuite, on le plaque. On le laisse refroidir.
On l'étale. Hein.
On l'étale. On le laisse refroidir. Ensuite, on le coupe en petits cubes. On le passe dans un petit bain de friteuse à l'huile de pépins de raisin. On a un riz croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. On prend du thon. On coupe le thon finement avec de l'huile de sésame, un peu de sel, un peu de poivre.
J'accepte.
Là, on accepte.
Oui.
On peut le manger sur le riz croustillant, avec une petite mayonnaise, avec un petit peu de wasabi à l'intérieur. Et donc, on a ce cube de riz bien croustillant, moelleux à l'intérieur. Un joli tartare de thon assaisonné. Je sais que c'est pas votre tasse de thé. Mais je vous le ferai goûter.
Non, mais c'est pas ma tasse de thé, mais là, vous savez que vous finissez toujours par m'intéresser, en tout cas, parce que vous prenez des chemins qui m'emmènent vers des choses bien agréables. Tout cela sous le regard de Claude Lelouch qui est avec nous.